Bonjour les amis, on est de retour. C'est l'épisode 12. Oula, je bug déjà sur le premier mot. Épisode 12. Vous avez vu le titre, il est croquant. Il est peut-être sanglant, je sais pas. Ou alors très mesuré, très rationnel comme à mon habitude. Vous êtes évidemment dans Road to 10 Million, le podcast. Je suis Théo Lyon, fondateur de Koudak. Ce nom qui fait à la fois référence à mon agence Ads, où j'aide des e-commerçants et des startups sur leur media buying, leur créa et leur tracking. Mais aussi à l'écosystème d'agences spécialisées que nous sommes en train de construire. On fait partie par exemple Linker, une agence de marque personnelle qui a passé son road to 1 million l'année dernière. 1 million, ça veut dire 1 million chiffre d'affaires. Et qui a vocation à s'agrandir avec d'autres jeunes fondateurs talentueux qui s'associent à Koudak pour qu'on scale tous ensemble. Premier paragraphe de mon intro. Peut-être que je la raccourcirai dans les prochains épisodes, mais en tout cas, comme ça, vous comprenez bien ce qui est en train de se tramer si jamais vous êtes un nouvel auditeur, puisqu'on a chopé beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes avec le dernier épisode. On aura l'occasion d'en reparler. Vous entendez aussi peut-être, pour ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous l'attendiez avec impatience, peut-être pas, j'ai un anti-pop sur mon micro. Je peux dire tous les mots en P. Paroisse. C'est le premier mot en P qui m'est venu. J'aurais pu dire pompier. Ça me fait penser à un petit passage du dernier podcast. Bref. J'ai pas trop envie, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va terminer cette introduction. Excusez-moi. Voilà, donc la date de naissance de Koudak, c'est le 1er avril 2020, quand j'avais 22 ans. Et on a atteint 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel en 12 mois et 200 000, pardon, en 19 mois. Ce qui avait rarement été fait pour une boîte de service, qui plaisait sans lever de fonds. Et donc tout ce joyeux monde compte aujourd'hui 50 personnes en full remote et un CA mensuel de 352 000 € pour notre corps. Voilà. Donc vous êtes déjà plus de 292 000 à suivre mes aventures sur toutes les plateformes confondues. Donc ça prend en compte TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, X maintenant, on peut plus dire Twitter, et ce podcast-là. Je mets pas les stats audio d'Enlève tes chaussures et les bruits e-commerce qui sont mes deux autres podcasts. Et donc si je suis actuellement dans vos oreilles, c'est parce que j'ai pour objectif d'emmener cette boîte à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui ferait 833 333 par mois. Donc j'ai pour objectif de le faire avant fin 2024, et je documente ce challenge qui a donné le nom à ce podcast, et je vous apprends comment atteindre le top 1% de ce que vous faites, parce que c'est un petit peu ma mission à titre personnel et dans l'entreprise que je souhaite monter. Et parce que pour grossir plus vite que les autres, il faut s'y prendre différemment des autres. Et donc j'essaie de vous enseigner ce que j'apprends au jour le jour, les trucs que je fais bien, les trucs que je fais moins bien, qui vous permettent d'être plus performants à titre d'individu et dans vos carrières professionnelles ou vos aventures entrepreneuriales, puisque 34% de ce public, selon le sondage Spotify, sont des chefs d'entreprise. Ils ont pas mal d'employés, à peu près 20%, beaucoup de freelance. Je crois que c'est la seconde population la plus représentée. Et les autres, je sais pas ce que vous faites. Qui êtes-vous, en fait? J'ai mis quoi? J'ai dû mettre 6 levels. Je vais aller vérifier le détail exactement, parce que peut-être que je vous ai dit de la merde. Mais normalement, c'est ça. Et donc, oui, j'ai été extrêmement surpris, en fait, de tous les messages que j'ai reçus dans un des podcasts. Alors, attendez, je suis en train de charger les stats en même temps. Je suis pas multitâche. Voilà, oui, et un des autres principes de ce podcast, hein, et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai pas coupé ce passage qui est un petit peu long, c'est parce que je ne fais pas de montage. Donc tout est en live, j'ai évidemment préparé ce que j'allais vous raconter, mais voilà, il n'y a pas de post-prod. Alors c'est pas du tout parce que je sais pas faire et parce que mon équipe travaille pas le dimanche, si c'est totalement pour ça, mais c'est aussi parce que voilà, j'ai envie que ce soit plus authentique que les autres. J'ai déjà plein de formats qui sont très travaillés sur tous les autres leviers. Donc celui-là, c'est pas l'objectif. Alors, regardons un petit peu ce que ce sondage a donné. Vous êtes 34% de chefs d'entreprise, j'avais raison. 26% d'employés d'une entreprise, 17% de freelance et 21% d'étudiants. Donc bonjour à tous. Normalement, il y en a pour tout le monde, parce que ce sont des principes généraux et sous-jacents qui traversent les époques, qui vous permettent d'atteindre le top de votre potentiel. Voilà. Donc merci beaucoup d'être avec moi. Bienvenue dans l'épisode 12 de Road to 10 Million. Cette intro a duré 4 minutes. Je pense que je la raccourcirai un peu plus pour les prochains. Mais ça n'est pas un problème pour l'instant. Donc, précédemment, dans Road to 10 Million, si vous avez raté les derniers épisodes. Alors, vous avez adoré les derniers épisodes. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et vous avez aussi adoré le hors-série que je vous ai fait sur la prépa. C'est super. Voilà, je suis très content que ça vous ait plu. Parce que c'est quelque chose qui était beaucoup plus personnel. J'ai essayé de vous rapporter ça toujours à des leçons pour pas que ce soit juste moi qui raconte ma vie. Donc, je suis extrêmement content. Et surtout, ça m'ouvre toute une possibilité de vous en faire plein d'autres sur HEC, par exemple. Sur mes bouquins préférés, sur le sport, est-ce que j'en ai appris, enfin voilà, plein de trucs qui sont pas directement liés à de la performance sur le papier, ou alors des épisodes voilà qui suivent cette structure de podcast où je vous fais l'actu d'abord, puis les pendules à l'heure, puis le performance check, puis la réponse aux questions, parce que c'est un petit peu les quatre sections de ce podcast. Donc ça va être super. Et j'ai aussi pour projet de faire venir des invités. Je vous en reparle. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit en sondage sur Instagram, @theo.le.lyon. Je vous pose beaucoup de questions sur comment améliorer ce podcast. Notamment, vous disiez que vous aimeriez bien avoir des invités. Vous m'avez aussi demandé de faire plus de, enfin, de faire des commentaires d'actualité, ce que je vais malheureusement pas faire, parce que déjà, je m'en branle un peu de l'actu. Je ne la suis pas particulièrement beaucoup. Hein. Je ne suis pas grand adepte des médias. Donc, ça sera un petit peu... Enfin, ça ne serait pas naturel. Voilà. Par contre, les invités, je trouve que ça peut le faire, mais je n'ai pas envie que ce soit des invités comme je peux avoir dans les boutiques commerces où on lève tes chaussures, donc en mode interview. J'ai envie que ce soit des potes. J'ai beaucoup de potes entrepreneurs que je peux faire venir et qui réussiront à garder cette atmosphère un petit peu de discussion, comme j'ai pu avoir dans les premiers épisodes que j'ai fait avec Alix, Paul, etc. et des membres de l'équipe que je connais très bien, qui créent cette atmosphère où il n'y a pas de barrière. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai pété un câble de tout ce que j'ai reçu, notamment en fait les profils de gens qui m'envoient des messages. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens comme ça qui écoutaient le podcast. Je suis assez choqué. J'ai des entrepreneurs de ouf, avec des boîtes vraiment 10 fois plus grosses que la mienne, et plusieurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient kiffé. J'ai beaucoup de pointures de la tech, donc des C-levels assez importants que je connaissais, qui m'ont envoyé des messages. Donc, je pense que le public de ce podcast est assez qualifié. Et à ce sujet-là, du coup, j'ai ouvert l'interface, je vais pouvoir vous dire, nous sommes actuellement à 21 000 écoutes, je crois, au total. Depuis le lancement, il y a 3 mois, voilà, 21 223 écoutes, et vous êtes 3 336 dans la taille du public. C'est la métrique qui est affichée par Spotify sur les 7 derniers jours. Nous avons fait une petite entrée dans le classement national des top podcasts français, à la modeste 175e place. Voilà, mais on a fait des petites entrées sur le classement à faire. Là, pour le coup, on est assez bon, mais bon, je ne sais pas, et ça me prendra trop de temps d'aller les chercher, donc je ne vais pas vous barber. Voilà, donc où est-ce qu'on s'était laissé? Donc, merci beaucoup hein, de me soutenir, ça me va droit au cœur. Donc, continuez à mettre des notes sur Spotify, vous êtes hyper assis là-dessus, sur Apple Podcast, de me mettre des messages sur Instagram dès que vous kiffez, ça me va vraiment, je lis tout. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je fais l'effort. Voilà, merci beaucoup. Donc la semaine dernière, je vous avais laissé sur... C'était la fin de l'été, c'était la reprise voilà, de la rentrée. J'avais recommencé à bien charbonner. Et l'idée un petit peu générale, c'était d'élever les standards. Et j'avais une petite réflexion sur le travail d'un CEO qui était justement être le garant de ces standards-là pour son entreprise. Et ça commençait par les standards personnels. Donc si vous ne pouvez pas demander aux gens d'appliquer des choses que vous ne faites pas vous-même, c'est beaucoup plus facile de le faire quand vous montrez par l'exemple. Voilà, donc allez vous repencher sur cet épisode si jamais c'est une idée qui vous intéresse et vous voulez en savoir plus. J'avais aussi créé la section Remettre les pendules à l'heure qui a suscité quelques commentaires. Je pense que si vous avez écouté cette section, vu un petit peu les petits débats sur LinkedIn, vous aurez compris le titre de ce podcast. Pour les autres, vous ferez comme vous pouvez. Comme vous pourrez, pardon. Et enfin, j'avais parlé de Naval, sur lequel j'avais développé une petite théorie sur un cinquième levier qu'il avait oublié dans ses démonstrations et qui était le levier des idées. Donc je vous le tournais sur comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à bon escient pour être plus efficace dans vos créations de boîtes, principalement dans votre marketing. Donc au menu de ce podcast, nous allons commencer par l'actualité de la semaine pour Kodak et pour moi-même. Il y a des actus très perso. Et ensuite, on va remettre les pendules à l'heure et je vais séparer cette section en deux parties. Il n'y aura pas de performance check cette semaine parce que je voulais en faire une, mais j'ai passé tellement de temps à préparer les pendules à l'heure que c'était chelou de rajouter un autre truc après. Vous allez voir. J'ai pas envie que ce podcast dure des heures. Donc je vais faire j'ai trois pendules à remettre à l'heure. Et ensuite, on prend les questions et après on passe à la toute dernière pendule. Vous allez voir pourquoi je l'ai séparée. Toc, toc, toc. Et ensuite, voilà. Je répondrai aux questions. Vous m'en avez posé plein sur Instagram. Je vous questionne quelques jours avant le podcast, donc le samedi ou le vendredi. Et ensuite, je réponds à la majorité des gens. Bref, passons tout de suite à la partie actu, jingle inexistant. Commençons par les actus perso. Il y en a beaucoup cette semaine. J'ai plein de choses à vous raconter. Oula, attendez, j'ai tapé un petit pop. Parce que du coup, ça rajoute un relief sur mon micro. J'ai perdu mes repères. Bon. Hier soir, je me suis rendu un super événement qui s'appelle l'UFC Paris. Vous savez à quel point je suis un fan de MMA. C'est l'un de mes intérêts personnels les plus développés. Je le pratique, je le regarde. J'adore ça. C'était une excellente soirée. J'ai été invité par l'équipe Miniweight, que je remercie, qui sont les sponsors de Manon Fioro et qui m'ont fait le don d'une place la veille. Je n'étais même pas au courant que j'allais y aller. Voilà, ça me bat droit au cœur aussi. Ça, donc merci beaucoup aux frères Léomi. allez checker Mini White sur internet, super marque. Et donc, j'ai pas mal de choses que j'ai appréciées dans cet événement. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que la lecture d'un combat quand t'es en live dans une arène, c'était la première fois que j'allais voir un combat d'MMA, est super différente de ce que tu vois à la télé. Déjà parce que t'as pas les commentaires, et c'est un peu plus dur de savoir... Enfin, tu vois qui domine, mais tu vois pas l'impact vrai, enfin réel des coups, à moins qu'il y ait des gros coups KO. Donc c'est très différent, par exemple, sur le combat de Cyril Gane. Moi, il m'a pas semblé chiant, ce combat, mais apparemment, à la télé, on avait l'impression qu'il s'employait pas. Donc j'étais assez surpris de voir les interprétations. Et... Donc voilà, ça, c'est très intéressant si jamais vous regardez des matchs de foot, ou des matchs, enfin des événements sportifs. Sachez que voilà, les interprétations ne sont pas toujours fidèles à la réalité. Je pense que c'est plutôt les gens en live qui ont raison sur ces choses-là, plutôt qu'à la télé. Parce qu'en fait, un commentaire qui est asséné en même temps qu'un coup change son interprétation. Donc si c'est un gros coup, mais qu'on ne voit pas trop s'il a été paré par l'adversaire, par exemple, eh bien, et que la personne dit « Ah non, le coup, il arrive dans la garde. » Alors qu'en fait, le coup, il l'a sonné, et que tout le monde a vu en live que ça a touché, mais la personne n'a pas bougé, ben, ça change l'interprétation de qui domine le combat. Bref. Et donc, ouais, voilà. Pourquoi est-ce que je voulais vous en parler surtout? C'est parce qu'il y avait un des combattants qui combattait sur la main card, c'est le premier combat, c'est Morgan Charrière. Alors Morgan Charrière, ça fait quelques années que je le suis, c'est l'un des premiers contenus MMA que j'ai trouvé sur YouTube, puis j'ai commencé il y a quelques années. Et il a été rendu très très populaire récemment par un documentaire qui a été diffusé sur Brut et qui a été fait par Charles Villa. Il fait toujours des documentaires de ouf, lui. Et qui est honnêtement incroyable. Au point que ça m'a un peu mis les yeux mouillés, disons, pour faire un euphémisme. En plus voilà, de sa dernière vidéo, parce qu'en gros, il s'était mis le challenge il y a 3-4 ans d'arriver à l'UFC. Il a fait un petit peu comme son Road to 10 Million, c'est Road to UFC qu'il a fait et il y est arrivé. C'était son premier combat à l'UFC. Et je trouve que ça, avec ce documentaire Brut en plus qui a rafraîchi les esprits de tout le monde, ça a donné tellement de sens à sa victoire que c'est, en fait, c'est pas tant une affaire de gagner un combat, mais de quel est le sens derrière le gain de ce combat. Donc là, ça fait 4 ans qu'il charbonne, il vient de nulle part, etc. Bref, il a une super histoire et il gagne et tout le monde sait ce que cette victoire veut dire. Et donc, du coup, quand ça célèbre, quand ça crie dans l'arène, ça crie 10 fois plus fort que pour tous les autres. Et donc, cette personne-là, Morgan, est excellent en branding. Je vous conseille vraiment de faire un format documentaire parce que les gens s'attachent à vous. Enfin, un format documentation, plutôt pas documentaire. Parce que ça donne du sens, voilà, à ce que vous faites. Et ça peut transformer un mec qui met des patates en le symbole d'une ascension vers les sommets. Voilà. Et donc, ça m'a un petit peu permis de clarifier mon ambition. Et moi, en fait, voilà, quel est le sens? Parce que sur le papier, faire une agence, c'est quand même pas le truc qui est le plus sexy du monde, je vous le répète à chaque fois. Mais moi, ce que je veux créer derrière avec ça, c'est que je veux devenir le premier milliardaire building public, depuis le jour 1. Et j'ai la chance aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dans ma catégorie, d'avoir fait cette vidéo, et je me remercie tous les jours de ce truc-là, d'avoir osé sortir ma caméra quand je ne gagnais pas un euro, d'avoir fait Road to 1 Million épisode 1, tout crispé, agrippé à mon mug, parce que j'étais terrorisé. Je suis super content de voir l'ascension. Et j'ai envie de pouvoir faire un montage quand... Enfin, mon premier objectif, déjà, ça va être de créer le plus gros groupe d'agences indépendantes en France. Atteindre 10 millions, c'est un petit peu ça que ça voudrait dire. Évidemment, modulo les concurrents, mais je ne les regarde pas trop. Voilà. Et donc, c'était... Ça m'a beaucoup... Voilà, ça avait beaucoup de sens pour moi, parce que je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'a fait Morgan. Et j'ai passé une super soirée. J'ai réussi à esquiver ce genre de traquenard que sont l'équipe Miniweight, parce que, voilà, c'est deux frères. Et ces assassins, en fait... Je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait acheter de l'alcool dans les événements sportifs. En fait, voilà, parce que dans les stades, souvent, tu ne peux pas en acheter, tu n'as que de la bière 0%, mais ça a changé il n'y a pas longtemps. Et je crois que de toute façon, à l'Accor Arena, ça a toujours été autorisé. Et donc, ces petits salauds, à chaque fois qu'ils allaient pisser, ces bâtards, ils revenaient avec 3 pintes. Et vous savez que je suis en train de faire un petit challenge où je fais gaffe aux calories. Et c'était un calvaire pour éviter ces trucs-là. Donc, j'ai réussi à m'en sortir avec un déficit, mais je me suis fait violence parce que j'avais faim en rentrant, mais toutes les pintes s'étaient enfilées. Je m'en suis sorti avec 3 pintes. Oui, et voilà, bon, tout le monde était rôti, c'était une super ambiance. Enfin, voilà, ils étaient. Ça a renversé de la bière sur le mec devant, le mec s'est vénère. Et une règle numéro 1, c'est qu'il ne faut pas s'embrouiller avec des gens à un événement de sport de combat. Parce que souvent, bah, c'est des amateurs de sport de combat, donc c'est des gens un peu entraînés. Voilà, il faut éviter, ils sont un peu chauds. Bref, super événement, UFC Paris, c'est la seconde édition en France. Ça a énormément de sens aussi que le MMA puisse se faire une grosse place comme il est en train de se faire depuis ces quelques dernières années. Ce matin, j'ai conduit une Formule 4 pour la première fois, figurez-vous. C'était mon cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par David et Nathan, que j'embrasse, deux très bons amis. Donc je me suis rendu sur le circuit de Beltoise à Trappes, où je ne pensais pas qu'on me reconnaîtrait sur cet endroit, et il y a un mec qui est venu me voir. Donc ça m'a fait flipper. Non, je rigole. Non, merci. Et ça commence à devenir... je sens que je suis en train de passer un petit peu le cap de... ça m'arrive maintenant régulièrement, toutes les semaines. Et ça commence à faire quelques temps quand même, ça m'arrive une ou plusieurs fois par semaine. Donc là, je suis en train de réfléchir et de me rendre compte que ce que je pensais être une notoriété de mini-niche, en fait, cette mini-niche, elle fait aussi des activités le reste de sa journée. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils vont aussi conduire des Formule 4 le week-end. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti, je pouvais vous dire quoi, voilà. C'était deux fois sept tours avec cette Formule 4, c'était super, c'est la première fois que j'en fais. J'en faisais, comment vous dire que c'est 14 tours, c'est deux sessions. Moi, je me suis arrêté 5 fois au stand. J'arrêtais pas de me faire arrêter par le mec, là. Le mono qui me disait, tu vas trop vite, tu freines trop tard. Le mec me disait, tu vas trop vite sur un circuit. Et j'avais en fait en effet le cul qui chassait. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est tu pilotes mal. Et donc, j'ai passé vraiment un super moment. C'est super intéressant comme expérience de conduire une monoplace. C'était la première fois. Et donc, ça me prépare aussi pour la semaine prochaine où je me rendrai à un petit Grand Prix que vous connaissez, dans lequel il y aura beaucoup de créateurs. Parce que Jules Palatin, voilà, la star de Discord, a picrave quelques petites places à la team Koudak. Je vous en dirai plus bientôt. Voilà. Deux dernières actualités personnelles, avant de passer au pro. Bon, les amis, la semaine dernière, j'ai découvert ce que c'était un fumoir. Un fumoir, c'est pas l'endroit où ça pue dans les boîtes où t'as les yeux qui piquent, où tu vas pour parler parce que la musique est trop forte. C'est un endroit où tu peux fumer des cigares. Et commander des planches de fromage et tout. Donc il y en a un dans Paris, j'ai été gentiment invité par ces connoisseurs que sont les amis de Slick, les fondateurs. Donc Slick, putain, j'en parle à tous les épisodes. Et c'est pas fini, parce que d'ailleurs, bon, je vous spoil, hein, mais ça va être les premiers invités de Retout et Mignonne. On enregistre demain l'épisode, si tout se passe bien. Et donc on a fumé des... Je crois que c'était peut-être le troisième cigare de ma vie. Et c'était super, parce qu'en fait, ce que crée cette atmosphère-là, c'est que t'es dans des canapes et tout, t'es trop bien, dans une petite pièce fermée. Donc le cigare, ça pue pas, c'est pas comme la clope, c'est un super goût et tu fumes souvent des bons cigares. Et ça crée une atmosphère de pendant 2 ou 3 heures, on a fait que parler. Et ça crée un petit... franchement, ça crée une atmosphère super cool de la discussion. C'est comme quand tu... Non, je peux pas dire ça ici. Je peux pas encore passer le cap. voilà, c'est un très bon moment à passer entre potes, donc je vous recommande si jamais vous avez bien les cigares. Moi, je fume pas du tout de cigarettes, mais les cigares, là, c'était assez appréciable, voilà. Et dernière chose, je vous parlais de ce challenge. Le challenge, il s'appelle Dexa 10. Ah non, j'ai renommé, pardon. Il s'appelle Sécher pour Scaler. Le but, c'est d'atteindre 10% de body fat. J'ai commencé à 16,5% il y a 5 semaines. Et je documente tout sur Instagram, donc allez regarder, il y a une petite story à la une. Il s'appelle Dexa 10, que j'ai pas encore renommé. Voilà, donc et tout se passe, honnêtement, tout se passe super bien. Je suis à 55% de l'objectif, il y a à peu près 50% du temps qui est passé. Donc le but, c'est d'atteindre ces 10% de body fat pour mon anniversaire le 4 octobre. Donc il me reste 5 semaines. Et ça se passe très bien. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai une déter. En fait, il y a d'ailleurs plutôt une déter que ça maintenant, c'est une discipline. Et même qui est même devenue une habitude. C'est que 3 séances par semaine à la salle, aucun problème. Je rajoute 2 running, 2 à 3 running. Et... je bouffe super bien. Donc, j'ai déjà perdu 2 kilos. J'ai hâte de voir si ça va faire une différence visuelle. Je ne vous rends pas de photo au milieu du challenge, parce que je ne suis pas un youtubeur muscu non plus. Je reste un entrepreneur. De base, je vous les ferai à la fin quand même, pour vous motiver. Et ensuite, je vous ferai peut-être possiblement un petit Notion avec tous les trucs que j'ai utilisés et les méthodes qui ont bien fonctionné. Voilà. Donc, tout se passe bien et ça me donne une énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, je vous jure, j'ai une énergie qui est démultiplié parce que j'ai cette discipline là. Le matin, je vais courir, je mange bien, je prends les bons petits compléments et c'est un truc de ouf comme ça fait une différence sur le travail. J'ai une énergie de porc, j'ai vraiment un truc. Je peux faire je me tape des 8h, 20h sans problème avec une petite heure pour manger. Bon, certains trouvent ça impressionnant, certains pas, mais en fait, ce qui est important, c'est surtout que ce sont des heures qui sont bien travaillées, qui sont propres. Avant, t'es l'après-midi, t'es un peu ballonné et tout, là, ça déboîte. On est arrivé à la fin de la partie actu perso. Ceux qui s'en battaient les couilles de ma vie, c'est terminé, je vous rassure. On passe à l'actu pro et je bois une gorgée dans ma grande bouteille de Perrier. Il y a quand même un mec qui m'a dit, je vais repartager un story Instagram, qui serait dégoûté de plus avoir les bruits de glotte et les postillons à cause de l'antipop. Non, je suis pas un malade quand même. J'allais retirer l'antipop et vous faire des bruits de glotte, mais on n'a pas encore passé ce cap, vous et moi, ça fait que 12 épisodes. Actu pro, bref, 4 choses à vous partager cette semaine. Donc la semaine dernière, vous savez qu'on organise des petits événements un petit peu exclusifs entre des marques e-commerce qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Et donc c'était la seconde édition, la première était sur un rooftop, la seconde était au cave, comment déjà ? Galerie Vivienne, voilà. Dans lequel on a fait une dégustation de putain de vin, la Châteauneuf mon cul, et tous ces trucs-là que... Moi je suis nul à chier en vin, vraiment. Je sais apprécier des bons vins, mais... les reconnaître, savoir quel cépage, voilà, où est-ce qu'il a été élevé le petit raisin, j'ai eu beaucoup de mal, mais c'était super, on a eu beaucoup de, voilà, de marques assez stylées, je pense à Merci Andy, Cabaya, Chloé, qui est-ce qu'on a eu d'autres, enfin là il y avait une belle brochette de marques super stylées, Almé, Spring, donc des super clients, et c'est vraiment c'est des super moments sur lesquels les gens ils discutent grave entre eux, j'ai l'impression qu'on a craqué un truc avec ces petits événements, c'est une quinzaine max. Donc je vais bientôt vous sortir un petit reel sur Instagram pour vous raconter la soirée, parce que forcément c'est une dégustation de vin, donc assez marrant, plus les photos, donc ça plaît beaucoup, on va le faire tous les mois, et le prochain on est en train de préparer, si jamais vous êtes une marque e-commerce qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne, mettez-moi un message sur Instagram, et peut-être que je verrai ce que je peux faire. Sinon la semaine dernière on a aussi fait cette petite journée de tournage, dans laquelle on a tourné deux formats en une journée, j'ai d'abord tourné un petit épisode des Bruts e-commerce avec la marque Bocu, que vous connaissez peut-être, j'embrasse William, qui est passé à la maison avec lequel on a tourné un super épisode qui devrait sortir d'ici un mois parce qu'il y en a d'autres en prévision. Et puis, on a tourné Enlève tes chaussures, le premier épisode de la saison 2 avec, tenez-vous bien, Alexandre Mullier. Vous connaissez peut-être ce nom de famille. Il est extrêmement connu. Donc Mullier, c'est évidemment cette dynastie Auchan et pas que. D'ailleurs, il y a une tonne de boîtes qui ont été montées par voilà, cette famille du Nord. Et donc Alexandre, c'était quelqu'un qui a la spécificité d'avoir racheté le club de Versailles. J'avais fait une petite story Insta et un post LinkedIn sur le sujet. Donc il a un background de ouf, puisqu'il a été VP France d'Auchan. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'employés. Et là aujourd'hui, c'est un Jean-Michel Aulas de Versailles. Donc un mec avec un parcours de ouf. On a enregistré, l'épisode est super, ça sort dans 4 semaines. Voilà. Puis dernier truc, ouais, je vous le dis parce que c'est un peu anecdotique et c'est marrant. Il y a HEC qui est venu faire un portrait sur moi, qui va sortir dans le journal des alumni. HEC Stories, pardon. Et je vous jure, vous savez que ma mère, elle s'en fout. À chaque fois que j'ai une retombée médiatique, j'étais sur BFM, elle s'en foutait. Tous les succès, LinkedIn, mon cul, etc., chiffre d'affaires, etc., elle en a rien à foutre. Mais par contre, quand je lui ai dit qu'il y avait la journaliste d'HEC qui venait faire un portrait sur WAM, elle était refaite. Parce qu'elle a vu, et ceux qui ont vu la fin d'Enlève tes chaussures, le hors-série, donc celui où on est juste en famille, le savent, elle a vu à quel point ça s'est joué à un cheveu pour que j'ai pas le diplôme. Je vous en parlerai dans l'épisode hors-série, certainement. Elle a vu que j'étais un rebelle, etc., je voulais me casser, etc. Et surtout, elle a vu après les articles, l'article là qui a été ce torchon que je ne peux pas retirer d'Internet, quand vous tapez Théo Lyon, Les Échos, c'est HEC, l'entrepreneuriat n'est une priorité que sur les brochures. Quelle catastrophe, j'ai pas choisi de titre. C'est de bout de phrase, un caca où elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon fils, il va se mettre tout HEC à dos. Et j'ai passé 2 ans à me rabibocher avec tout le monde, à reclarifier que globalement j'avais kiffé, ceux qui ont vu ma vidéo sur HEC le savent. Donc elle était super contente parce que c'est vraiment la marque, ok, voilà, tout va bien avec HEC Paris, je suis extrêmement content. Ça m'a rendu fier. Voilà, on a aussi été reçus par TikTok la semaine dernière, ils nous ont déroulé le tapis rouge, c'était super, ils nous ont présenté pas mal de nouvelles fonctionnalités, il y a des chiffres assez ouf d'ailleurs sur TikTok que j'avais pas suivi sur la durée des sessions, je peux pas vous les révéler parce que c'est des chiffres privés, mais dites-vous que le principal concurrent de TikTok, c'est pas Instagram, c'est Netflix, donc ça en dit long sur la durée des sessions par jour, voilà, et ils ont aussi la spécificité d'avoir un nombre d'audience, enfin une quantité d'audience dédupliquée, ça veut dire qu'il n'est pas présente sur les autres réseaux sociaux qui est énorme. Versus Snapchat, Facebook évidemment, Pinterest et Insta évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu peux toucher que sur TikTok. Ça, ça va faire très très mal quand ils vont craquer la monétisation. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le faire bien. Donc, on est en train de relancer des tests avec des clients parce qu'on avait un peu mis de côté. Mais c'est super. Voilà. Bon, le quatrième actu, c'est assez vite. C'est que... Non, elle n'est pas pertinente. Retirons-la. Bref, donc, je termine avec le contenu et les sorties de la semaine. Et après, on passe au pendule que nous allons raccorder cette semaine. Sorties vidéo de la semaine, nous en avons trois. Il y en a un qui est déjà sorti. C'est With The New qui vient de sortir aujourd'hui, je crois, au moment où j'enregistre. Car un épisode des Brut e-commerce, With The New, c'est une marque e-commerce qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout est dit, ça se passe sur la chaîne des Brut e-commerce, c'est en vidéo et en audio, en podcast aussi. L'épisode est dingo avec Benjamin Boulic. Et deux sorties cette semaine sur ma chaîne YouTube. Bon, le Road to 10 Million 22 a pris un petit peu de retard, mais c'est bon, il est fait. Mais croyez-moi que s'il prend du retard, c'est pour qu'on le travaille encore mieux, parce qu'on a du footage, en fait, du team building. Donc on peut faire un petit mix d'apprentissage et de plan de ce qu'on a fait pour en faire un truc un peu plus série divertissant et tout. Donc c'est un épisode qui va durer 17 minutes, donc assez long. J'espère qu'il vous plaira parce que je prends beaucoup plus de recul que ce que je peux faire dans ce podcast-là. Et vous allez apprendre plein de choses. Et ensuite, on va sortir une petite vidéo docu en gros sur la Linker House qu'on a organisée il y a quelques mois. Le premier rassemblement français d'influenceurs LinkedIn, figurez-vous. Maintenant, c'est un vrai truc. Donc, ça va sortir sur ma chaîne YouTube et j'en ai profité pour faire un point pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que l'influence LinkedIn, c'est de la balle, pourquoi c'est sous-exploité et pourquoi Linker va tout baiser. Ça sort sur YouTube cette semaine. Passons au pendule à l'heure. C'est parti. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs que je pouvais m'acheter une régie que je pourrais brancher à mon logiciel d'enregistrement pour lancer des jingles. Je pense que ce sera peut-être un achat que je ferai pour la saison 2 du podcast. On verra quand je l'arrêterai, peut-être à la fin de l'année, la fin décembre, quand on aura fait 20-25 épisodes. Bon, je sais pas, j'ai pas fait les comptes, hein, mais voilà, il reste 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, à raison de 13, ouais, 17 semaines, 17 fois 3, pour 17 fois 3, 17 tout court, 17 épisodes, on en est à 12, à peu près 27, avec les hors-série, disons 30. Je m'offrirai peut-être une régie plus tard, mais pour l'instant, système D, j'ai déjà un anti-pop, là j'ai scalé mon matériel. Et ça tombe bien parce qu'on passe au pendule à l'heure. Alors, le principe des pendules à l'heure, cette section-là, elle sert à quoi? Elle sert à vous permettre de faire moins d'erreurs. Donc vous utilisez toutes les erreurs que fait Théo Lyon pour ne pas les faire. Et toutes les erreurs que Théo Lyon a vu d'autres entrepreneurs faire. Parce que la chance que j'ai, c'est comme ça fait 3 ans et demi que je monte une boîte, j'ai plein de potes de mon standing et beaucoup plus haut que moi, qui ont fait des trucs que j'ai pas fait. Et je vois plein de choses que, potentiellement, vous ne voyez pas. Et j'ai envie de vous les apprendre, de faire le liant grâce à ce format. J'ai 3 choses à vous partager avant de faire la FAQ et de passer à la toute dernière qui sera retentissante. Alors, la première chose, le premier principe, c'est accepter le point de départ. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que lorsque vous voulez entreprendre un changement, dans votre vie, donc disons que vous n'êtes pas sportif, vous voulez vous mettre au sport, vous buvez beaucoup d'alcool, vous voulez arrêter, vous fumez, vous voulez arrêter, les gens pensent que il faut décider, c'est terminé, on arrête. Et donc c'est souvent très extrême comme démarche. Le problème, c'est que c'est exactement comme la préparation d'un semi-marathon. Suivez-moi sur Instagram, challenge semi-no-prep. Tu peux pas dire, quand t'as jamais couru, que tu vas pouvoir courir ton marathon, ton semi-marathon en 1h30. Et le problème dans tout ça, c'est que tu n'acceptes pas ton point de départ. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'instances qui ralentissent les gens parce qu'ils n'acceptent pas d'où ils partent. Les gens n'acceptent pas. En fait, la première étape d'entreprendre un changement pour arrêter l'alcool, c'est d'accepter qu'on est alcoolique. La première étape pour ne plus être un fumeur, c'est d'accepter qu'on fume trop et que ça nique notre santé. La première étape pour faire du sport, c'est d'accepter qu'on n'a pas le physique qu'on a envie d'avoir ou pas la santé qu'on a envie d'avoir. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que quand Koudak a une petite période de stagnation, mais une bonne période de stagnation, en vrai, pour être honnête, qui a duré 6 à 9 mois, sur les derniers mois, là, et j'ai mis du temps à accepter que c'était une période de stagnation, en fait, que la croissance était moins importante qu'avant. Je me disais, non, ça va repartir, non, on n'est pas, en fait, c'est pas mal ce qu'on fait, etc. Et les 2 mois qui viennent de s'écouler, là, sur l'été, on a fait tellement de progrès avec l'équipe. Tout a changé, en fait. tout a changé parce que les standards ont changé. Et la première étape, c'est que j'ai accepté, ok, Kudak ne grossit pas aussi vite que je veux. Pourquoi ? Je me suis fait dépasser par des concurrents. Pourquoi ? J'ai perdu des appels d'offres. Pourquoi ? Eh bien, écoute quoi ? Je ne suis pas au niveau. Et ça, c'est la première étape d'une démarche qui fonctionne. Et en fait, quand tu acceptes le point de départ, quand tu acceptes que tu n'es pas un coureur, que tu veux courir un semi-marathon, eh bien, tu ne commences pas à essayer de te cramer et de faire l'effet Strava. Là, d'ailleurs, j'ai vu un mème sur le sujet aujourd'hui. Pour ceux que pour les runners, ça va vous parler. C'est quand tu logs un run sur Strava, que tu rentres chez toi et que tu commences, tu vois ton temps, tu n'es pas forcément très content ou alors que tu veux un peu faire le mec, tu commences à te justifier en description. Oui, alors il y avait un petit peu de vent, j'étais pas dans ma top forme, ou alors je courais avec telle personne, j'ai pas pu faire les temps que je voulais. En fait, les gens s'en battent les couilles, les gens s'en foutent. Mais ça, c'est le même exemple, c'est parce que, en gros, tu veux courir trop vite au début. Et c'est là, etc., moi je l'ai faite. Vous voyez, franchement, si vous me suivez sur Strava, d'ailleurs, vous pouvez suivre Théo Lyon, je suis en public. Eh bien, j'y suis allé trop fort. Et j'ai pas accepté que j'étais pas un runner. Et ça, c'est le meilleur moyen de se blesser, j'allais plus pouvoir s'entraîner, et ensuite de pas progresser. Il faut regarder l'escalier et passer les marches une par une. Pas essayer de faire le mec. Et donc, commencer. Et en fait, le problème, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas, c'est parce que ça nécessite d'être humble. De redescendre dans son ego et de se dire, ok, je suis peut-être pas aussi stylé que ce que je pensais. Et il y a un grand danger aussi, c'est la zone d'entre-deux. C'est pour ça que c'est... En fait, ça a d'abord été documenté dans le monde corporate sur pourquoi est-ce que les gens ne quittaient pas leur travail. Donc, dans ton travail, soit tu es très heureux, soit tu es très malheureux, soit tu es vite fait, bon, le travail est pas mal, il paye bien, mais c'est pas ouf, mais tu connais. Et en fait, les gens qui partent jamais de leur travail, c'est la case du milieu. Parce que y a pas, la souffrance n'est pas assez grande pour les faire changer, et donc ils restent toute leur vie dans un système au milieu, pas ouf, et dans la stagnation. Et pour certains, c'est là où tu vois les standards des gens. Donc, disons que ces trois états-là que je viens de vous décrire, c'est la progression, la décroissance, le malheur, etc., blablabla, et la stagnation, qui est le troisième état du milieu. Pour certains, la stagnation, c'est OK. Et c'est là où tu places tes standards. Pour moi, la stagnation, c'est pas OK. T'as des gens qui sont très contents d'avoir un taf qui est vite fait, qui paye bien, ils savent qu'ils vont avoir une petite augmentation, par-ci, par-là, ils n'ont pas forcément de validation dans le sens de la boîte qu'ils sont en train de créer. Ça passe. Mais tandis que s'ils avaient un patron qui les harcelait, un truc horrible, et qui, voilà, qu'ils en pouvaient plus, eh ben, ils se seraient cassés de leur boîte. Ils auraient dit, vous faites enculer, je me cache, je vais trouver un truc mieux. Donc finalement, c'est pour ça que parfois c'est mieux que ça se passe mal, donc de partir de très bas, d'accepter que c'est de la merde. Souvent, c'est hyper bénéfique pour le changement. Donc, ne faites pas les anciens. Acceptez que on part tous de très loin. Et ne vous mentez pas. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se ment, et moi le premier, je pense à Kian Kojandi dans Bref, quand il montre les gens qui se mentent sur leur calvitie, là. Et tu sais qu'ils prennent leurs 3-4 cheveux, là, et ils se les mettent sur... ils se les coiffent sur la tête, et en mode, non, tranquille, non, personne n'a vu. Moi, j'ai mis un peu de temps, par exemple, à accepter que ça commence à creuser sur les golfs. Mais tu vis beaucoup mieux quand tu acceptes cette chose-là et que tu ne te mens pas. Voilà. Et donc, vous savez qu'avec toutes les choses que la majorité des gens ne font pas, bah, ça constitue des edges que vous pouvez développer contre eux. Et donc, il y a un énorme edge à être plus honnête que les autres avec soi-même, tout court, et à reconnaître quand on a fait de la merde et quand on n'est pas là où on a envie d'être. Donc, je vous recommande d'accepter le point de départ et vous en servir pour progresser, parce que c'est une condition sine qua non. Seconde chose, je voulais briser un mythe, vous permettre de ne pas faire une erreur sur laquelle moi j'ai eu quelques doutes. Je me suis beaucoup demandé, principalement dans cette période de stagnation des 6 à 8 derniers mois. Enfin, je dis 6 à 8 d'ailleurs, mais il faudrait que j'aille checker les chiffres. Je ne sais pas si c'est 8. C'est un peu... Bref, une période dont je ne suis pas content. Ça ne grossit pas aussi vite que je voudrais. C'est, est-ce qu'il faut être corpo à tout prix ? Alors, ce sujet, qu'est-ce que tu me racontes ? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Alors, parce que dans mes périodes de doute, là, de boîte qui avance un peu moins vite que je voulais, je me suis beaucoup demandé, est-ce qu'on n'irait pas plus vite si j'ouvrais moins ma gueule ? Donc, Kudak n'est pas la boîte la plus corpo de la Terre. Pourtant, on évolue sur le domaine des agences, sur lequel c'est pas trop stylé d'être des foufous, d'avoir une com originale, d'être un petit peu différent. Donc les gens, ils me disent peut-être « Ouais, tu dis un peu trop de gros mots, Théo. » Mais en fait, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc je choisis de ne pas mettre de filtre. Et je me suis dit « Est-ce que ce truc-là, en fait, me ralentit ?» Il y a pas mal de gens qui disaient « Ah, moi, à ta place, putain, j'aurais peur de faire ça. » En vérité, en fait, franchement, là, pardon, pour reprendre les choses dans l'ordre, quand il y a une période de stagnation, je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça une des raisons pour lesquelles il y a de la stagnation. Je devrais rentrer dans le rang. Et puis, j'ai un peu médité sur la chose, et ça s'est mieux passé ces 2 derniers mois, et là, j'ai une réalisation. En fait, le problème, c'est pas que tu dis trop de gros mots, c'est pas que t'es pas assez corpo, c'est que t'es pas assez bon, tout court. Quand il y a quelqu'un qui peut te faire gagner 1 million d'euros, et que t'es sûr qu'il peut te faire gagner 1 million d'euros, tu t'en fous, en fait, qu'il soit corpo ou pas corpo. Et donc, c'est une putain d'excuse, c'est un truc de victime. De dire ça, de dire ah, si j'étais plus corpo, les grosses boîtes, elles voudraient bien bosser avec moi, etc. Non, mais en fait, ouais. Non. En fait, la vérité, c'est juste que tu te caches derrière ce truc-là pour juste assumer que t'es pas assez bon. Une boîte qui est forte, ça finit par se savoir. Le mot passe, le bouche à oreille fait son travail, ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par fonctionner. Et corpo, pas corpo, on s'en fout. Et quand quelqu'un te dit, moi, j'ai peur de j'aurais peur des conséquences d'avoir un podcast et de dire des gros mots. En fait, c'est eux qui ont peur, c'est pas moi qui ai peur. Moi, je m'en fous. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne veux pas du voyage sans cette authenticité-là, sans en mettant des filtres prout-prout, là, costard-cravate, parler avec de la distance aux gens, mettre des... Je traite les gens avec respect, mais je ne veux pas me travestir non plus. Donc, je vous ai trouvé une petite citation. Je voulais en anglais et traduire derrière parce qu'elle est à l'origine elle est en anglais. Donc je fais pas ça juste pour faire le connard. Write the story that you were always afraid to tell. I swear to you that there is magic in it. And if you show yourself naked for me, I'll be naked for you. It will be our covenant. C'est de Dorothy Allison et en français ça donne écrivez l'histoire que vous avez toujours eu peur de raconter. Je te jure qu'elle est magique et que si tu te montres nu pour moi, je serai nu pour toi. Ce sera notre alliance. Bon. On retire les gens à poil, vous voyez ce que ça veut dire. En fait, quand tu te mets à nu, quand tu montres vraiment qui t'es, les gens te le rendent, parce qu'ils ont eux aussi envie de te mettre à nu. Et donc, je développe des vraies relations avec les gens, pas mal de gens qui écoutent, qui regardent mes contenus, et des gens que je rencontre, juste en mettant pas de filtre. Il y a des gens qui m'aiment pas, des gens qui m'aiment bien, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient neutres. Et ça, c'est cool. Et donc, les gens, ils te le rendent simplement quand t'es honnête. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué, en fait, de copier tout ce contenu que j'ai fait, Road to 1 million, etc. C'est parce que j'ai tout commis, en fait, de ma personnalité. J'ai tout engagé, j'ai rien caché. Il n'y a pas une partie que vous n'avez pas. Et ce podcast en live, en fait, finalement, si je le fais assez de fois, normalement, c'est censé être pas mal représentatif de ma personnalité, même s'il est préparé, parce qu'il n'y a pas de montage. Donc, il n'y a pas de filtre, à part cet antipop qui nous sépare. Et quelques kilomètres. Voilà, donc... ne vous cachez pas derrière il faut être corpo, il faut être sérieux, etc. Il ne faut pas être original, même si je suis sur un métier corpo, travaillez plus fort en soyez meilleur, tout court, vous avez compris. Je bois un petit peu d'eau ensuite. Ouais, le point numéro 3, tourne dans ma bouteille, c'est choisir sa victoire. Alors je vous en parle de celui-là parce que depuis que j'ai commencé à courir, mon feed Instagram est rempli de runners. Donc ça a d'abord été les gens qui couraient 10 km, puis maintenant là, c'est le week-end de l'UTMB, donc Ultra Trail Mont Blanc. J'ai eu tout le monde, d'un coup. Et notamment ce bon Mathieu Blanchard, qui fait ressentir des frissons. Ses vidéos, elles sont dingues, et tu vois à quel point il souffre, et tu vois que bon, là, il a fait 4e cette année, et tu le vois, moi je sais pas s'il est très content cette année, mais en tout cas, je trouve que c'est une prouesse personnelle. Ce truc. Et c'est ce qu'il y a de plus pur. Pardon. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus proche d'une victoire, tout court. Donc de plus pur. C'est-à-dire que là, c'est la personne qui a gagné un challenge contre lui-même. Bon, il n'a pas été premier, mais il a gagné. Et quand j'étais aussi à l'UFC Paris, je voyais ces combattants qui savouraient ces victoires. Il n'y a pas de discussion, en fait. Il y avait un combat, ils l'ont gagné. Et donc, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, pardon. Je reste un petit peu sur ma faim avec l'entrepreneuriat, parce qu'en tant que compétiteur, je suis assez frustré qu'il n'y ait pas de gagnant désigné. C'est-à-dire une compétition, toc toc toc, un match, le gagnant, il a la Coupe du Monde, le perdant, il ne l'a pas, c'est tout. Et puis je me suis rendu compte que c'était pareil pour toutes les carrières. En plus, bon, y a un truc qui est problématique dans une carrière et quand tu montes une boîte, c'est que c'est très difficile de définir le succès. Qu'est-ce que ça veut dire réussir une boîte? Est-ce que ça atteint tant de millions? Et puis quand tu l'atteins, tu vas atteindre plus? Est-ce que ça atteint tant de personnes? Est-ce que c'est être libre de son temps, etc. Enfin, il n'y a pas une règle, un set de règles qui font, bah, une fois que tu as fait ça, bon, bah, tu as gagné le jeu. Voilà. Et puis ça recommence plus tard, la nouvelle Coupe du Monde. C'est pareil pour toutes les carrières, et c'est très très dur de définir la victoire. Par contre, c'est très facile de définir l'échec pour une boîte, parce que c'est la faillite. Et donc, si tu veux pas un petit peu de réflexion dans ton aventure entrepreneuriale, tu peux te retrouver à perpétuellement être en train de t'enfuir de l'échec. Parce que tu sais pas ce que c'est une victoire, mais par contre, tu sais très bien ce que c'est l'échec. Donc, tu vas juger ton progrès à quel point est-ce que je suis loin de l'échec. Donc, est-ce que ma boîte, elle est bien profitable? Je suis loin de la faillite. Est-ce que je fais de la croissance? Est-ce que je vais pouvoir relever de l'argent? Et c'est comme ça que tu juges. Mais ça marche pas que comme ça. Il faut pas juste essayer de s'enfuir de l'échec. Il faut quand même se poser une petite question de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et en plus, tu peux te faire avoir par le fait que le quotidien d'un entrepreneur est beaucoup plus riche en fail qu'en victoire. Et ça, n'importe quelle personne qui a monté une boîte le sait. C'est pour ça que même si une boîte se passe très bien, d'intérieur, tu peux avoir l'impression d'être un loser parce que tu rates plein de choses, mais les gens voient que les trucs qui réussissent. Parce que forcément, un truc qui rate, les gens l'oublient. Mais il faut rater 7-8 fois avant d'avoir un truc qui marche bien. Et donc pour moi, monter une boîte, c'est simplement une invitation à choisir sa victoire. Voilà. Il y a ceux qui veulent, par exemple, travailler le moins possible pour gagner le plus. Ils veulent voyager. Donc ça, c'est par exemple les solopreneurs. Ils ont choisi leur victoire. Et donc, du moment qu'ils arrivent à faire ça, ils gagnent. Et ceux, il y a ceux, par exemple, qui veulent changer un usage. Donc, ce n'est pas forcément des entrepreneurs. Hein. Ça, c'est par exemple des ingénieurs qui veulent aller travailler dans une des plus grosses boîtes. Selon voilà, l'impact qu'ils veulent avoir. Donc, j'en sais rien. Quelqu'un qui veut révolutionner la mobilité. Il va aller travailler chez Uber, il ne va pas forcément essayer de monter sa boîte parce qu'il va avoir de l'impact directement. Ça marche aussi. Il y a ceux qui veulent construire un truc monstrueux, ça c'est plutôt mon cas, un truc gros. Et il ne faut pas faire l'erreur de croire que l'entrepreneuriat est un jeu qui a une fin. Pour moi, je trouve que les plus belles boîtes sont celles où le but, c'est de continuer à monter la boîte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme une transformation physique où le but c'est perdre 5 kilos, tap tap. C'est bon, je suis stock. Normalement, le but c'est d'optimiser tellement le voyage de ta boîte, selon ce qui toi t'amuse. Hein. Pour moi, c'est du coup d'optimiser, d'avoir une boîte en croissance qui grossit avec de plus en plus de gens qui kiffent. Eh bien, il faut tellement optimiser ce truc-là pour que tu n'aies jamais envie de lâcher ta boîte. C'est pour ça que les gens sont misérables souvent après qu'ils l'aient vendue. C'est parce qu'ils ont quand même mis un petit peu, ils ont mis même beaucoup de même dedans. Et on leur retire ce truc-là, ils se rendent compte, bon, ok, on m'a pris ce truc-là, on m'a donné des millions en échange. Est-ce que ça valait le coup? Et la réponse est souvent non. Voilà. Et donc, votre travail, c'est une invitation à choisir la victoire, comme je vous disais. C'est comme une compétition sportive, sauf qu'il n'y a pas de fédération. C'est à vous de choisir la discipline et vous choisissez la récompense. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui va choisir ça. Donc, vous choisissez vos propres règles et ça ne sert à rien de juger les règles des autres. Ça me fait une transition avec la quatrième pendule qu'il va falloir remettre à l'heure et notamment l'histoire de la semaine de 4 jours sur laquelle il va falloir revenir absolument. Pour vous tous qui écoutez, remettre les points sur les i. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Et donc aussi, dernière chose, il faut choisir les règles et la célébration. Surtout, n'oubliez pas de célébrer. Ça, c'est très, très, très important. Nous, on le fait tous les trimestres avec Koudak. Quand on a bien travaillé, on récompense tout le monde. C'est un gros team building. Tout le monde s'amuse. Mais si vous ne le faites pas, votre cerveau, il va rapidement comprendre. J'ai travaillé comme un chien, mais j'ai rien eu en retour. Hop, allez. Je vais lui coller une petite déprime là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous récompenser. C'est très important. Quand les sportifs y gagnent, ils vont sur le podium, ils prennent leur médaille et ils kiffent. Donc si vous ne le faites pas, si vous-même, vous ne prévoyez pas vos célébrations, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Très important. Donc récompensez-vous quand vous faites des trucs stylés, ça vous donnera encore plus envie d'aller chercher le truc d'après. Voilà. Donc là, normalement, on passe au point 4, qui va s'appeler, pardon, déconstruire le signalement de vertu. J'en avais déjà parlé dans le dernier épisode, et là nous avons maintenant le cas pratique suite à mon dernier post LinkedIn. Mais nous allons commencer par répondre aux questions des auditeurs parce que j'ai envie de finir sur ce dernier point qui est, selon moi, très important. Alors, toc toc toc, est-ce que ça record toujours 43 minutes? Super. Donc, on commence par les questions. Benoît Floquet, mon camarade de promo d'HEC, dis donc, qui pose une question. Dans ta croissance sportive, tu t'imagines faire un Ironman? Alors, je suis de plus en plus impressionné par les gens qui font ça. Je trouve toujours que c'est un truc de ma boule. Vous êtes des oufs. L'Ironman, a priori, non, parce que le vélo et la natation, c'est vraiment pas mon truc. Des courses un peu longues, pourquoi pas, mais il y a tellement de chemin. Je me mens pas sur le point de départ. Et j'ai plutôt envie, je pense, et ça irait un petit peu à l'encontre, en fait, des objectifs sportifs que j'aurais d'un point de vue salle de sport. Que pour courir un Ironman, il faut être une ficelle. Et j'ai pas trop envie d'avoir ce genre de physique-là. Plutôt, mais je sais pas, peut-être plus tard. Écoute, c'est un sport qu'on peut faire en plus assez tard, Ironman, qu'est-ce paradoxal. Voilà, et donc tant que Benoît est là, j'en place une pour son entreprise, Tire l'air d'avenir, voilà, qui vous permet de donner un petit peu d'argent à une cause qui vaut le coup, ce que je fais depuis quelques années maintenant en automatique. Je vous recommande Tire l'air d'avenir, je sais pas si pour comment.fr, voilà. Valentin TRT, êtes-vous épanoui, virgule, heureux? Bah ouais. Épanoui IE, en fait. C'est pour ça que je bug un petit peu là. Je suis super heureux en ce moment. Voilà, ça fait 3 mois que je suis hyper heureux. Pourquoi? Parce que j'ai remis de la progression dans ma vie. Et moi, j'ai compris que c'était ça qui me rendait heureux, pardon. Ça me renvoie à une petite citation qui a été prononcée par mon ami Paul Maher, qui est mon associé, et qui disait, de façon très simple, comme à son habitude, vivre, c'est accomplir. Et en ce moment, j'accomplis plein de choses. Ce podcast, plein de petites victoires que vous ne voyez pas chez Koudak, mais qui se traduiront par des grosses victoires sur le long terme, soyez-en sûrs. Donc je suis hyper, hyper épanoui. Je sais que je suis au bon endroit, je suis trop heureux, j'adore mon mode de vie. Je suis au top. Voilà. Hubert Michels, comment trouver sa voie, ce qu'on veut faire dans la vie? Alors, je n'ai pas beaucoup, énormément de conseils à donner là-dessus. Je sais que moi, je l'ai trouvé en faisant beaucoup de choses. Donc, Hubert, ça ne se fait pas sur un papier. Tu ne vas pas réfléchir avec ton cerveau et dire, ah, c'est bon, c'est ça que je vais faire de ma vie. Tu vas plutôt essayer de faire ce qui te semble être la solution la plus probable à l'heure actuelle. Donc, dans ton cerveau, tu as forcément un truc en tête quand tu dis ça. Tu l'essaies et tu essaies de tirer une vraie conclusion de pourquoi est-ce que tu as kiffé ou tu n'as pas kiffé avec des points. Et comment est-ce que tu peux avoir plus un travail ou une voie. Tu auras plus des trucs que tu kiffes et moins des trucs que tu kiffes pas, et tu continues d'itérer. Pour certaines personnes, ça prend 30 ans. Hein. Mais ce chemin, il est hyper agréable, par contre. C'est ça qui est trop cool. Alors, après combien de temps le building public a changé le ratio inbound-outbound? CAC-CACT me demande. Alors, nous, on a toujours eu plus d'inbound que d'outbound. En fait, on fait encore aujourd'hui très peu d'outbound. Hein. Ça doit être moins de 10% de nos deals, même 5% en fait. On est claqué. Mais on est en train de devenir meilleur, on a un head of sales qui arrive bientôt. Donc voilà, le ratio n'a pas vraiment changé malheureusement. Quelle est votre répartition des inbound et outbound? C'est encore toi, lors de vos débuts à Koudak, c'est toujours 100% inbound. As-tu réussi à faire du sport pendant tes 2 années de prépa? Si oui, à quelle cadence? Alors Alexis, j'ai réussi à faire une séance de basket par semaine pendant la première année de prépa et pendant la seconde année. Non, non, mort, mort. Je faisais plus rien, j'allais jouer un petit peu au basket le week-end de temps en temps. Mais non, je ne faisais vraiment plus du tout de sport. J'ai coupé toutes les autres activités autour. J'ai fait un énorme sacrifice sur tout, qui a payé. Mais non, je n'avais pas de sport. Mais je recommande quand même d'en faire un. Voilà, je pense que j'arrivais quand même à garder une petite séance de sport, mais je ne le faisais plus en club. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'en faisais plus. Et j'allais jouer au terrain le week-end quand même. Enfin, je suis un ouf. J'en ai toujours fait un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant le succès de Koudak Day One? Demande MVH 3.4. Ben, pas grand-chose. Je dirais que l'objectif, c'est de découvrir qui tu es. Ça fait un peu la citation Pinterest. Désolé, mais vraiment, je pense que c'est sérieux. Et pour découvrir qui tu es, il faut d'abord essayer d'être quelqu'un d'autre. Et donc, essaye de faire des trucs que les gens qui t'inspirent font. Moi, il y a beaucoup de créateurs de contenu, c'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu. Et découvre si c'est ça. Et parce que le meilleur moyen de savoir qui t'es, c'est de te confronter à des trucs, un petit peu comme je disais avant, la personne qui cherchait sa voie. Donc je dirais, continue, tranquille, ça va bien se passer, n'aie pas peur de faire des choses que les autres ne font pas, c'est normal, c'est même une condition, hein. Si tu fais pareil que tout le monde, tu vas finir comme tout le monde, donc forcément si tu veux atteindre le top 1% d'un truc, ou alors avoir une vie originale, disons, pas forcément dans le top d'un truc, eh bien, il va falloir faire des trucs différents des autres, forcément. Soso Imzak, tu souhaites continuer à vivre en France dans les 5 années à venir? Oui, et oui. C'est pas dit que je change pas d'avis pour l'instant. Je vous dis, moi, ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est l'environnement et le fait d'avoir ma famille à côté. Tous mes potes, mon cercle social est là. Et comme j'ai envie d'aller vite et de faire. J'optimise tout, en fait, pour que ma boîte grossisse le plus vite possible et m'éclater dans cette aventure, il faut que ça se passe à Paris. Et j'imagine que tu pensais certainement aux impôts. Pour l'instant, je cherche plus à maximiser les revenus qu'à minimiser les coûts. Je ne me suis jamais posé la question et pour l'instant, ça ne me donne pas trop envie, voilà, de me la poser. J'ai mieux à faire à côté. Fais-nous un tuto de ton orga perso et de boulot, s'il te plaît. On sent que la prépa t'a suivi. Ouais, c'est long, hein. Non, bah écoute, je pense que je l'ai expliqué en plus dans le dernier épisode. Quand je parle de ma to-do avec mes objectifs hebdomadaires, mes tickets avec les temps par ticket, les priorités. J'ai 5 tâches prioritaires par semaine que j'essaie de délivrer et qui font que ma semaine a un succès, c'est un peu le Pareto. Je fais des OKR tous les trimestres. Et oui, non, je taffe vraiment beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Que penses-tu des stages bras droit CEO? Fausse bonne idée pour se lancer dans l'entreprise. Alors, les bras droit CEO, les stages bras droit, c'est le poste avec le plus de variance. C'est-à-dire que ça peut autant être incroyable que ça peut être nul à chier. Parce qu'un bras droit CEO, ça veut tout et rien dire. Ça t'aide pas forcément ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de cas où c'est vite fait. En termes de bras droit CEO, soit c'est de la grosse merde, c'est-à-dire que les tâches sont pas claires, tu te retrouves à faire des trucs que tu savais pas que tu devais faire et qui t'intéressent pas. Soit c'est ouf et la personne te prend vraiment comme un vrai bras droit et elle t'emmène partout. Donc pour ça, je te conseille deux choses. Premièrement, de choisir avant tout une boîte. Donc choisis une boîte que tu kiffes et va faire bras droit CEO. Va pas chercher un truc pour le salaire ou pour les tâches en priorité. Et ensuite, seconde chose, parce que en fait, ça te permettra de kiffer la boîte. Ça veut dire que si c'est un peu modulable, c'est toujours malléable en fait ce que tu fais dans un stage bras droit CEO. Ça te permettra de te raccrocher un petit peu au sens de la boîte dans laquelle tu kiffes bosser. Et seconde chose, c'est d'être très précis sur les missions pendant l'entretien et tout au long du stage. Donc, pour faire comprendre que tu n'es pas corvéable, tu es venu pour apprendre tel truc, tel truc, tel truc, et si tu les apprends pas, tu vas te casser. Donc aujourd'hui, il faut que le CEO il donne ça. Sinon, c'est de la merde. Alors, Fnic.com qui dit: Oh, j'aime beaucoup tes podcasts, continue. Merci beaucoup. Conseiller, école et agence, comment t'as fait et que nous conseilles-tu? Adebayo, il faut faire un choix. Comme dans la vie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, malheureusement, voilà, si tu veux vraiment te mettre à fond dans ton agence, il faut, disons, s'organiser de façon smart et ingénieuse pour répondre aux attentes de l'école, si jamais tu as envie d'avoir ton diplôme, ce que je te conseille, hein. Et pouvoir quand même avancer sur ta boîte. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un des fondateurs qu'on coach qui est encore en cours. Et voilà, il s'optimise dedans et il voulait arrêter ses études. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le convaincre du contraire. Je sens que c'est pas encore gagné. Et je recommande vraiment pas dans tous les cas d'arrêter ses études, en fait, parce qu'il y a très peu de chances. En fait, quand tu arrêtes tes études, au poker, on fait ce qui s'appelle se polariser. C'est-à-dire que tu te mets dans une zone où tu rajoutes du risque non nécessaire. Et donc, soit tu es un génie, soit tu es un trou du cul. Et je ne te connais pas, mais il y a beaucoup plus de chances que tu sois pas Mark Zuckerberg, que tu sois un génie. Alors, les questions d'après, parce qu'il y a un mec qui me demande, penses-tu que la France soit sur un déclin? Je m'en branle. Comment t'as fait pour structurer la boîte avec une telle croissance? Bah écoute, je me suis toujours occupé du problème numéro un à la fois. Et tous les moments où ça a grossi moins vite, c'est quand je ne le faisais plus, typiquement ces derniers mois. Enfin, les 6 à 8 derniers mois, les fameux là. Donc, oui, écoute, prends les problèmes un par un. T'occupe pas de problèmes que tu n'as pas. Nous, on a une expression chez Koudak, c'est un PPPT, c'est un problème pour plus tard. Donc, je me suis d'abord occupé de faire entrer des chiffres d'affaires. Puis ensuite, on s'est rendu compte que la compta, c'était le bordel, on a fait la compta. Puis, j'arrivais plus à bien recruter, propre, j'ai recruté une RH, la finance, etc. Et ainsi de suite. Et fais ton truc tranquille. Alors, aimerais-tu rencontrer tes abonnés? Un truc sympa, quitte à rendre l'entrée payante, slash chère. Bah, en fait, non, c'est Baptiste RZ2. Bah, j'aimerais bien vous rencontrer. Évidemment, je suis toujours très flatté d'avoir des gens qui me disent des trucs cool. Je vous rencontre déjà beaucoup. Hein. Mais je vais pas faire un événement comme un influenceur, quoi, rencontre abonné ou je sais pas trop quoi. Si vous voulez me voir d'ailleurs, bah, je peux vous annoncer. Cette semaine, je serai à la Founders Night avec des amis. Donc, si vous voulez me voir, on pourra y être. Je serai dans le public, hein, je ne fais pas de conf. On pourra se rencontrer là-bas. Mais non, mon business model, c'est d'être entrepreneur. Donc, je n'ai pas de temps forcément à accorder à rencontrer des abonnés, même si je vous aime beaucoup. Voilà. Comment tu gères ton BP forecast chaque année pendant l'année sur Excel? Oui, bon, bah écoute, un bon gros Excel avec des prévisions, avec tous les managers, un BP pessimiste, un BP objectif. Donc, le premier pour la trésor et le second pour set les objectifs. Voilà. Que penses-tu d'un feat avec Laboiserie? Bon, je ne connais pas. Je suis un entrepreneur. Ton top 3 films inspirants pour tout exploser? Demande Galtier. Bon, j'imagine que tu parles un peu d'entrepreneuriat. Je vais te recommander The Social Network, évidemment, qui est le film que j'ai maté des dizaines de fois parce qu'il a élevé mon niveau d'ambition. Je vais te recommander la série sur la création de Spotify. Ça s'appelle The Playlist. On clique aussi, je crois. Est-ce qu'il m'en faut un troisième? Non, je vais te recommander tous les specials de Dave Chappelle, qui sont pour selon moi une leçon de courage. C'est ouf. Voilà, quelqu'un de très réfléchi, que je trouve très 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 intelligent, bien plus que moi. Et voilà, il m'inspire beaucoup cette personne. Donc, as-tu trouvé ton head of sales? Oui. Ou recruter un directeur commercial ou des commerciaux, bah, le même endroit que toujours, sur LinkedIn. Tu mets une offre de poste, on en a beaucoup en entrant, et puis tu fais de la chasse. Toc, 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 on continue. Quel est le bon moment pour recruter son premier CDI? Bah, alors, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'au démarrage, on avait commencé à taffer avec des free. Des gens qu'on voulait embaucher en CDI, mais qu'on a testé en free. C'est un peu du rafistolage au début, faut pas que ça dure très longtemps, ça. Et ensuite, tu recrutes ton premier CDI quand tu as l'argent pour le payer et quand tu en as vraiment besoin. C'est-à-dire que c'est, tu sais que toi, ton temps, tu vas l'attribuer sur quelque chose qui a plus de valeur, qui contribue plus au développement de la boîte que le taf que tu veux filer à ce CDI, parce que souvent, ça va être un duplicat de toi-même, le CDI que tu vas avoir, le premier, bah, du moins sur les agences. Et voilà. Donc, ne te précipite pas, fais de l'argent avant de recruter ton CDI. Est-ce que tu penses que les écoles en dessous d'HEC sont vraiment moins intéressantes? Alors, non, pas du tout, Tom B, LLR. Je trouve que. Bref, oui, on a plein de. Non, mais ce qui est génial, en fait, bon, faut comprendre ce que tu vas acheter dans une école de commerce. Tu vas acheter l'exposition, l'ambition, le réseau et le tampon. Donc, forcément, plus tu descends dans le classement Cigem, moins ces facteurs-là sont énormes. Donc, tu as moins de personnes qui. Enfin, l'ambition descend un petit peu à chaque fois. Tu n'as pas la même ambition dans une école de top 15 que HEC, forcément. Tu n'as pas le même tampon non plus. Et tu n'as pas le même réseau. Donc, non. Ce qu'il faut juste savoir, c'est est-ce que ça vaut le coup en termes d'investissement, donc argent que tu vas payer. Et en termes d'investissement de temps, donc si tu as fait une prépa ou pas. Voilà, donc non, pas du tout. Non, moi, je conseille vraiment de toute façon de faire le cursus scolaire parce que sinon tu te mets vraiment dans la zone, tu te polarises encore une fois, tu n'as pas besoin de ça. C'est déjà bien assez dur. Fais-toi, fais déjà, respecte tes parents, première chose. Les gens, ils disent, je déteste en fait les gens qui te disent, oh, mes parents, ils m'ont poussé dans une voie, etc. Mais c'est le travail de tes parents de te pousser dans la voie qu'ils estiment être la meilleure pour toi parce que tu es incapable de prendre des décisions quand tu es petit. Quand tu grandis, donc Dieu merci qu'ils te poussent là-dedans, ils veulent limiter le risque. Et aujourd'hui, je suis tellement content que mes parents, ils aient eu un petit plan pour moi. C'est-à-dire de me dire, ok, va plutôt faire une tranquille, fais une première S. C'est bien. Et moi, j'étais évidemment, j'étais content aussi. Hein, j'ai rien fait contre mon gré. Mais voilà. Accepte qu'il faut faire quand même le background académique et aussi principalement, parce que dans ta carrière professionnelle, tu vas être avec beaucoup de gens qui auront ce background académique. Donc si tu l'as pas, il va y avoir un décalage. Voilà. C'est la fin de la partie FAQ. On va passer au débunkage. Non. À la déconstruction. Non. On va s'occuper du signalement de vertu. Je vais boire un peu d'eau parce que là, ouf, faut que je m'hydrate. Bon. Remettons un petit peu de contexte. Donc, la semaine dernière, j'ai sorti cet épisode qui était intitulé Remettre les pendules à l'heure. Et je parlais du cinquième levier. J'arrive pas à fermer ma bouteille de Naval. Voilà. Je fais des. Je fais des pauses, hein. Je parle de deux sujets en même temps dans mes phrases, j'espère que vous kiffez. Mon expression, il est tard, il est 22h30. Donc, voilà, j'envoie un petit post LinkedIn. Très très court, hein, le post LinkedIn. Hein. Vraiment, et je mets une accroche. C'était quoi déjà l'accroche? Semaine de 4 heures, piscine à boules. Il était temps de voilà, remettre les pendules à l'heure. Bon, bref, les trucs dont je parle dans le podcast, hein, c'est trois lignes et un lien vers le podcast. Et bon, je me barre, je vais courir. Et je reviens. Et le post était parti viral. C'est devenu énorme. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il a 100 000 impressions. Vous ne pourrez pas le trouver, malheureusement. Parce que vous allez voir après pourquoi. Et notamment, je découvre quelques petits commentaires un peu virulents. J'en découvre d'abord un. Et puis, un second. Auquel j'ai eu l'occasion de répondre. Vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, voilà, j'étais en train de lire le premier. Et il se trouve que le second est arrivé en même temps. Et ça a une importance pour la suite de l'histoire. Donc il y en a un qui rageait sur les piscines à boules et l'autre pour la semaine de 4 heures. Donc je me suis pris les deux ambassadeurs. Et donc je me suis laissé une petite semaine pour savoir ce que j'allais faire d'eux. J'ai mis une petite réponse, très courte pour le premier, qui était plutôt... ouais, qui était pas méchant. Donc je vais en parler très très vite. Et un peu plus long pour le second. Je spoile pas, je vous ai structuré un petit truc après. Donc j'ai pas envenimé les conflits. Souvent, j'ai toujours. Enfin, je réponds pas aux commentaires sur LinkedIn. Hein. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous allez voir tous mes posts. Il n'y a jamais de réponse. Donc, c'est-à-dire bon comme mauvais, je regarde, mais je réponds pas. Mais cette fois-ci, il y a un des deux commentaires qui est une attaque personnelle. Et donc, qui est une tentative de salir moi et mon travail. Et donc, forcément, quand on essaie de me faire une petite attaque, là, sous la ceinture, comme ça, je contre-attaque. Et je suis obligé de me défendre. Et donc, forcément, quand quelqu'un me menace, j'éteins la menace. Donc, il y en a un qui a essayé de me salir. Et donc, avec le recul, j'ai beaucoup réfléchi. à savoir si est-ce que je voulais déclencher une petite guerre contre ces personnes-là, qui sont, mine de rien, assez notorieuses. Pas ces personnes-là, mais en fait, je vais pas les mettre tous les deux dans le même sac. Le premier, il est gentil. Le second, il l'est beaucoup moins. Et avec le recul, donc en réfléchissant bien, j'ai choisi, j'ai fait le choix, vous en posez ce que vous voulez, de ne pas dire leur nom. Parce que déjà, je ne peux pas leur donner de visibilité, mais surtout, je n'ai pas d'animosité particulière contre eux, et je n'ai pas envie que vous-même, vous en ayez. Et c'est aussi pour ça que vous ne trouverez pas ce post LinkedIn, je l'aurais supprimé avant de publier le podcast, parce que je m'adresse d'abord aux personnes qui ont lu ce post, et qui ont vu le commentaire, pour pouvoir me permettre de clarifier ma position, mais je n'ai pas envie d'envenimer le truc. J'ai pas envie que vous sachiez qui c'est, que vous allez envoyer de la haine ou je sais pas quoi, d'aller mal commenter ses posts, etc. C'est pas l'objectif. Donc, je vais pas dire leur nom, mais je vais faire une réponse. Et c'est surtout pour vous, parce que ça vous évitera de vous faire niquer, très simplement, par des malhonnêtetés intellectuelles et publiques, qui sont souvent monnaie commune sur LinkedIn. Voilà, parce que ça arrive en fait à beaucoup de gens, et donc je le fais surtout pour vous, pour pouvoir vous éduquer un petit peu sur la chose. Voilà, donc j'ai reçu 2 commentaires. Je vais vous les lire en essayant de taire le nom le plus possible. Et j'espère vraiment que je ne vais pas dire les noms, parce que comme il n'y a pas de montage dans ce podcast, ça veut dire qu'il faudra que je recommence. Et, ou alors, non, je pense que j'ai remis du montage. Bref, normalement, je ne vais pas dire les noms. Voilà, donc, ce post LinkedIn était à 3 phrases, pardon. Et donc, je vais passer très vite sur le premier commentaire, juste parce qu'il est assez drôle. Le mec, à la base, je l'aimais bien. C'est plutôt une blague qu'une démonstration. Et le mec, en vrai, il a fait un mème qui, il faut le reconnaître, est assez drôle. Donc c'est le mec sur la piscine à boules, là. Il a mis un mème, il a mis « Tu as vu le Seat Kodak ?» Ouais, ils sont loin derrière. Et c'est une photo de lui et son pote, je crois, dans sa piscine à boules. Je vois pas trop. Et donc il commente quoi ? Il dit « Q de Kodak, revenu. » Et donc là, il met notre revenu, notre EBITDA. Q de la boîte, revenu, plus élevé. « On sera à 10 millions d'ARR en octobre, Théo Lyon. Mais on veut pas te mettre trop d'avance. » Donc Théo Lyon tag. Donc, on prend le temps de chiller. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, je suis encore en vacances. PS, je sais que nos business n'ont rien à voir, ça ne se compare pas. Le service est beaucoup plus dur à scaler que le SaaS. Pour rien au monde, je ferai du service et j'admire ceux qui ont le courage de le faire et qui réussissent. Bonne chance pour la route vers les 10 millions et bien joué pour l'accroche. Donc, vous voyez, c'est une blague. Mais il y a quand même une mini critique dedans à laquelle il faut que je réponde. Mais c'est une blague et en vrai, c'est marrant. Et vous voyez qu'il est un petit peu plus. Il est assez mesuré. Bon, normalement. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de réponse logique à ce que je raconte dans mon post, hein, parce que voilà, vous aurez compris un petit peu la supercherie. Donc déjà, première chose, il n'a pas forcément écouté le podcast avant d'écrire son commentaire, parce qu'il a répondu très très vite pendant ses longues vacances. Et ensuite, il ne répond pas vraiment à ce que je dis. Hein. Moi, ma thèse, c'est est-ce que les piscines à boules améliorent la productivité ? Ça, malheureusement, dans sa réponse, ça n'est pas présent. Et donc, il fait un petit raccourci, qui est un très bon sophisme hein, d'ailleurs, que je vous recommande vraiment si vous voulez faire quelque chose de malhonnête. Et qui se retourne facilement contre lui, c'est-à-dire qu'il invoque le fait que ses chiffres soient supérieurs aux nôtres pour justifier l'usage de la piscine à boules. Malheureusement, ce sophisme se retourne assez facilement. Et donc, mon ami, je pourrais dire, si j'étais malhonnête, qu'une boîte comme Lemlist fait 20 millions d'ARR, ils n'ont pas de piscine à boules. Est-ce que ça prouve quelque chose sur les piscines à boules ? Malheureusement, non, même s'ils ont des chiffres plus élevés que les tiens. Donc, malheureusement, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive quand même un peu sur LinkedIn. Je le traite comme ça de façon assez, assez simple. Surtout parce que voilà, faut pas il a pas compris cette personne-là en fait la différence entre corrélation et causalité. C'est comme quelqu'un en fait qui voudrait pour t'expliquer que Nike est meilleur qu'Adidas va te dire non mais regarde les 3 derniers vainqueurs du champion du monde ils portaient des Nike. Comme si ça démontrait quelque chose. Et donc ça c'est ce qu'on appelle c'est presque un syllogisme. C'est que il va dire ma boîte fait plus de CA que la tienne. Or ma boîte a une piscine à boules et pas ta boîte à toi. Donc les piscines à boules permettent de faire plus de CA. Et vous comprendrez aisément. Le problème dans cette proposition. Mais bon, c'est pas une réponse qui m'a fait sur le plan logique, mais il s'agit quand même de la clarifier parce que ça n'est pas une critique sérieuse envers mon propos. Donc lui, c'était facile. Suivant. Alors, je vais vous lire cette masterclass. C'est la seconde personne qui, là, pour le coup, je vais devoir lui répondre. J'ai écrit pas mal parce qu'il faut clarifier ce sujet. Donc, il nous dit « Ce poste n'a aucun sens, Théo. » En tagant point. Je vais mettre de côté les piscines à boules. La semaine de 4 jours. Les vacances illimitées. Entre parenthèses, je suis pour si tu appliques le minimum de 5 semaines. Virgule, le remote, 3 petits points. Ce n'est pas du bullshit. C'est simplement prendre soin des ressources humaines. Jusque-là, pas d'accord, ok. Et voilà où arrive le vrai problème. Mon conseil de point. Tu ferais mieux de t'intéresser à ton turnover plutôt qu'à une bonne route pour atteindre les 10 millions. Quand ton business exploite de l'humain pour croître, la meilleure façon de se différencier, c'est d'avoir une culture forte, point. Ta boîte ne vaut rien sinon. Par exemple, on a arrêté d'être client chez vous simplement à cause du turnover et d'un manque de culture orientée sur l'expérience client. Et la culture de point, on travaille comme des fous, on presse l'humain et on les remplace, c'est un peu dépassé. Alors mon petit ami, on va devoir clarifier cette affaire et tous les problèmes dans ton message, qui est d'une malhonnêteté flagrante, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première chose, et ça se voit dans la première phrase qui commence assez mal, ce post n'a aucun sens, Théo, c'est que c'est une réaction émotionnelle, et un petit peu trop, malheureusement. Et tu vas voir, mon ami, que tu as fait beaucoup d'erreurs, en fait, dans ta démonstration, et que tu aurais dû prendre un petit peu plus de temps pour écrire ta réponse. Donc, la première chose, c'est que quand j'ai vu ce commentaire, parce que j'étais en train de lire le commentaire de l'autre troll, là, je dis troll, mais non, oui. En vrai, voilà, il sait très bien de qui je parle, mais bon, lui, on va dire qu'il aime bien, en fait, argumenter sur Internet. Et je vois qu'il y prend du plaisir, donc je veux dire, c'était pas son premier coup d'essai. Donc, je mettrais plutôt dans la case troll que la case critiqueur dangereux. Voilà, donc je lui écris directement un message pour savoir, est-ce que tu as écouté le podcast ? Il me répond pas. Il me répond pas pendant 20-30 minutes, je sais même plus, parce que du coup, je l'ai bloqué, évidemment. Je l'ai prévenu que j'allais le bloquer avant. Et il me dit quoi ? Il me dit... je me suis arrêté aux pompiers, ça m'a suffi. Donc je suis allé vérifier dans le podcast, hein, les pompiers, c'est à peu près à 30 minutes, 35 minutes. Le podcast, il fait 1h30. Donc, bon, moi, je peux vous dire, la semaine dernière, j'ai couru 7 km et je peux vous dire, j'ai couru un semi-marathon. Est-ce que ça marche ? Donc la personne n'a déjà pas écouté le podcast en entier. Donc ça en dit long. Sur tout ce qui se passe derrière, en fait, tout le problème vient de là. Et je peux même aller un petit peu plus loin que ça. Je pense que quand tu commences ton commentaire par « ce post n'a aucun sens », tu rates, en fait, tu montres. Parce que je ne peux pas prouver, évidemment, que tu n'avais pas écouté le podcast, mais je le sens, parce que c'est bizarre, parce qu'il s'est passé une trentaine de minutes, en fait, entre le moment où je t'ai envoyé le message et le moment où tu m'as fait une réponse, comme par hasard, disons que tu t'es arrêté aux pompiers, qui sont à peu près à 30 minutes. C'est quand même assez original. Bon, moi, je pense que tu as mis ce commentaire un petit peu rapidement. Évidemment, je ne vais pas faire d'accusation sans preuve. Disons que voilà, il y a beaucoup de choses qui me poussent dans cette direction. Donc, première chose, tu n'as pas respecté, tu n'as pas fait ton travail pour critiquer. Et tu aurais dit sinon, ce podcast n'a aucun sens et pas ce post n'a aucun sens. Bon, ce monsieur fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Donc, pourquoi ? Il emploie un procédé qui est très simple, qui s'appelle le bonhomme de paille. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre à l'argument que je présente dans mon podcast, en fait, le principe consiste à créer une version détournée de ce que dit la personne, et beaucoup plus fragile, et donc plus facile à attaquer. Celle-là, tu l'attaques. Donc, mon argument, simplement que je formule dans l'autre podcast, que vous aurez certainement écouté, c'est qu'à cerveau égal, tu ne peux pas prétendre avoir en 4 jours la productivité d'une personne qui en travaille 5. Et... c'est exactement la même chose avec une personne qui travaille 5 jours et une personne qui travaille le week-end. Moi, si je travaille pas le week-end, je vais pas prétendre avoir la productivité d'un mec qui me met 2 jours par semaine dans la vue. Donc moi, j'arrive pas, ils prennent de l'avance sur moi et je vais pas venir pleurer. En fait, quand il dit « la semaine du 4 jours, ce n'est pas du bullshit », c'est simplement prendre soin de ses ressources humaines. Il a transformé, moi, l'argument que j'ai dit dans mon podcast en « travailler 4 jours par semaine, ça réduit pas les risques de burn-out ». C'est-à-dire que c'est pas prendre soin de ses ressources humaines. En fait, cette personne-là, elle se parle à elle-même. Elle ne me parle pas à moi. Et la question, en fait, c'est pas est-ce que c'est du bullshit, mais quel résultat est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit comme résultat de bosser 4 jours par semaine versus 5 jours par semaine ? À quel jeu tu décides de jouer quand tu fais ça ? Et moi, je te dis que quand tu joues au jeu de devenir numéro 1 mondial, tu peux pas te permettre de rater un jour par semaine toute ta vie. Tu es obligé de régler toutes les variables pour la performance. Et le repos, évidemment, ça en fait partie. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas dire « je travaille 4 jours et je veux les résultats d'une personne qui travaille 5 jours ». Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle de l'entitlement en anglais. C'est-à-dire « je pense que je mérite, mais je n'ai pas mis en face les efforts ». Donc ensuite, moi, je ne juge pas ton jeu. C'est-à-dire que tu n'as rien compris au podcast parce que on ne joue pas au même jeu, mon ami. Mais toi, par contre, tu juges le mien. Ce qui m'aurait intéressé, en revanche, ce serait que tu développes, par exemple, l'impact sur la productivité d'avoir 4 jours sur 5. Et ça, pour le coup, on aurait pu en discuter. Ça aurait été avec plaisir. Et donc, je suis allé faire un petit tour sur ta page et j'ai trouvé un petit post où tu développes une argumentation. Je mets argumentation entre guillemets, hein, vous allez voir. Alors, bon, je passe très très vite sur le post. Son accroche, magnifique, exactement ce que je vous avais décrit dans le dernier truc. C'est une citation et ensuite un commentaire. Donc, entre guillemets, tu as été en maths à l'école? Point. 4, c'est moins que 5, point. Donc, ça, c'est les parenthèses. Oui, mais non, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Point d'exclamation. Bon, désolé à tous les Kevin, hein, je suis désolé, c'est le nom qu'on utilise quand on veut mépriser quelqu'un. Voilà, la première remarque que j'ai mise sur la mise en place de la semaine de 4 jours chez c'est. Tes concurrents bossent 5 jours. 5 jours par semaine, s'ils bossent plus, ils vont t'éclater rapidement. Donc, c'est un poste qui fait il y a 4 jours. Hein. J'ai dû aller le débloquer pour aller le voir, donc s'il vous plaît. J'ai dû me faire du mal. Bon, ils vont t'éclater rapidement. Voilà, donc on se demande à qui est-ce qui répond, mais bon, je ne ferai pas, comme lui, l'erreur de penser que ce message m'est destiné. En fait, si tu veux savoir, si tu écoutes ce podcast, je me souvenais même plus, en fait, que tu étais en semaine de 4 jours, je ne m'adressais pas à toi. Sur une vision court terme, c'est vrai, mais le développement d'une entreprise est un enjeu à long terme. Et c'est là où ça devient intéressant. Trois raisons qui prouvent qu'il faut prendre soin de ses équipes pour travailler mieux. Bon, alors voilà. Et encore une fois, un argument extrêmement controversé. Hein. Il faut prendre soin de ses équipes pour travailler mieux. Et encore une fois, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que ce qui sous-entend, c'est que ne pas mettre une semaine de 4 jours, c'est ne pas prendre soin de ses équipes. Et vous voyez, c'est ça, cette malhonnêteté. Et donc là, il développe trois arguments, entre guillemets, je reprécise. Le turnover, l'absentéisme et le présentéisme passif. Commençons par le turnover. On va les commenter un par un. En 2021, toujours selon une étude de l'INSEE, le taux de rotation du personnel moyen est de 15%. Chez, donc sa boîte, on estime que le coût d'un changement d'un job est autour de 40 000 euros. Blablabla, entre nous, diminuer le turnover est un enjeu stratégique pour gagner la partie. Donc encore une fois, il ne sort pas les chiffres qui montrent que la semaine de 4 jours, ça réduit le turnover. Tu ne montres pas. L'argumentation, elle est. En fait, il n'y a même pas d'argumentation là. Ok, un turnover, ça coûte cher. C'est tout ce que tu as prouvé. Maintenant, il faut démontrer que 4 jours sur 5, ça diminue le turnover. Donc, première malhonnêteté. Tu n'as pas terminé ton argumentation. Peut-être que voilà. Peut-être que tu as mis ce clic et tu as posté avant de terminer. On va préserver le doute. Non, mais en vrai, je vois, je rigole avec vous parce que c'est mon ton un petit peu, vous savez, dans ce podcast. Mais idéalement, cette partie-là, je la fais en mode sérieux. Parce que j'ai pas envie qu'on puisse me reprocher de la moquerie ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important de comprendre en fait ce qui est fait de malhonnête dans cette argumentation. Et bon, je vais essayer dans la mesure du possible d'avoir un ton sérieux, même si c'est très très dur quand on lit tout ça. Donc, seconde chose, l'absentéisme. Voilà, c'est mon second argument. C'est un poste. Voilà. En France, on passe en moyenne plus de 4 semaines par an en arrêt maladie et 2,5 millions de personnes sont en burn-out sévère. On n'a pas encore assez de recul chez. Mais si on regarde l'étude qui a été menée chez nos amis britanniques qui ont testé la semaine de 4 jours, ils ont constaté une baisse de 65% des congés maladie et 71% des employés ont déclaré avoir des niveaux de burn-out, entre guillemets, inférieurs. Alors, donc tu avances un argument et en même temps tu dis que tu n'as pas assez de recul. Tu sais même pas si ça fonctionne. Et tu avances un argument et tu dis aux autres de le faire. En fait, voilà, j'imagine peut-être que tu l'as mis en place pour réduire les arrêts maladie dans ton entreprise. Hein. Évidemment, je vais skipper les questions, hein, sur pourquoi est-ce que les gens ils se mettaient en arrêt maladie. Je ne vais pas non plus assumer que les gens se mettaient en arrêt maladie chez toi. Mais si tu avances que ça a réduit les arrêts maladie, j'imagine que c'est un effet que tu voulais produire dans ta boîte. Donc en gros, il nous dit que, simplement avec ce poste-là, que le but d'une entreprise, c'est de réduire le burn-out. Et donc, vous allez comprendre le titre de ce podcast. Si ton vrai but, c'était de réduire le burn-out, alors pourquoi tu ne fais pas la semaine de 1 jour? Moi, j'ai un plan pour toi. Je suis sûr que travailler 3 jours versus 4, ça réduit encore plus le burn-out. Et je suis sûr que travailler 2 jours versus 3, ça réduit encore plus le burn-out. Tu prends qu'un seul côté de l'équation, donc le temps travaillé, et tu ne prends pas l'autre côté, la production, le résultat. Et donc, ça devient hors sujet. Tu continues à te battre avec un bonhomme de paille. C'est ça, très simplement. Il n'y a pas d'argument en face. C'est très facile à démonter quand voilà, l'argument il est très fragile. Et en fait, le problème, c'est qu'à ce jeu-là, cette personne elle essaie de jouer, pardon, au jeu de la vertu. Et malheureusement, au jeu de la vertu, on peut jamais gagner. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, moi j'ai mis en place la semaine de 3 jours et je donne une semaine de vacances de plus que toi, et qui va te surmoraliser et qui va rendre inepte tout ce que tu viens de dire, une ineptie. Et donc tu vas perdre au jeu que tu as entamé tout seul. Donc ton argument sur l'absentéisme, encore une fois, fallacieux. Alors. Troisième argument, le présentéisme passif. En France, un salarié sur trois est en état de burn-out, mais plus de 90% viennent au travail. Je vous laisse imaginer les performances d'une équipe de foot si 3 joueurs sur 11 ne peuvent pas courir pendant un match. Alors, je suis très content que tu prennes une métaphore sur le foot, que j'en avais employé quelques-unes dans mon épisode précédent. Bon, en fait, là, c'est encore de la malhonnêteté. Pour lui, ce qu'il explique, c'est que... Oh, qui pense c'est malhonnête? C'est que pour lui, en gros, travailler 5 jours, ce qu'il dit simplement, c'est égal au burn-out. Ça veut dire, soit tu travailles 4 jours, c'est fine, soit tu travailles 5 jours, et là, tu encourages le burn-out. Donc, en fait, il chie sur tout le monde en écrivant des trucs comme ça. Et vous pouvez pas vous laisser chier dessus avec des jugements de valeur comme ça, de morale. Et je pourrais compléter que qu'est-ce que fait un bon entraîneur quand un joueur il court pas sur le terrain? Et ben c'est souvent parce qu'il est blessé, donc tu le sors et tu l'envoies se reposer. Et souvent, c'est plus la faute des managers qui font jouer les joueurs blessés. Et je pourrais dire dans un premier temps, ne blesse pas les joueurs de base. Y a des gens qui ont des niveaux de résistance différents sur leur quantité de travail, et c'est ton travail de manager de les identifier. Et malheureusement, ça n'est pas synonyme de semaine de 4 jours. Tu peux être un très bon manager et faire travailler tes équipes 5 jours. Mais en fait, c'est très facile à démonter comme point de vue parce que moi, j'accepte le tien. J'accepte que travailler 4 jours, ça réduit le burn-out. Super. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut le faire dans toutes les entreprises? Et c'est cette question que je pose. Et c'est cette question avec laquelle j'ai envie de discuter. C'est avec toi que j'ai envie d'en discuter. Toi qui écoutes le podcast, certainement. Malheureusement, tu ne me donnes pas de matière pour le faire. Et tu essaies... C'est quasiment totalitaire comme façon de voir le monde. C'est-à-dire, j'estime qu'il faut faire comme ça, et j'estime que toutes les personnes qui ne font pas comme moi sont des idiots. Et donc, je vais terminer une bonne fois pour toutes sur ce sujet du burn-out. Et je vais le dire pour tout le monde, vos burn-out LinkedIn, là, pour faire du like, j'en ai marre. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une haine personnelle, moi. Très, très personnelle pour les gens qui font ça. Parce que j'ai une expérience perso, un petit trauma, qui fait que je suis pas du tout indulgent avec tous les gens qui s'en servent pour faire du buzz. Voyez-vous, lorsque j'étais au collège, je n'ai pas vu ma mère pendant 6 mois. Et donc j'ai vu ce que c'était un vrai burn-out. Parce qu'évidemment, pendant 6 mois, elle est partie de la maison, dépression totale, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu le mal que ça cause sur un couple, et j'ai vu le mal que ça cause sur une famille. Ça laisse des séquelles à vie, en gros, ma daronne n'allait jamais pu retravailler à fond. Et j'ai vu ce que c'était. Une vraie dépression, un burn-out. Et parce que 6 mois, je ne l'ai pas vu, après, c'était plus la même personne. Et je sais ce que sont les causes, en fait, des gros burn-out comme ça. Les causes, ce n'est pas un jour de travail de trop. C'est un putain d'environnement de travail toxique avec un manager, qui te harcèle. Et ça, 4 jours de harcèlement, ça reste 4 jours de harcèlement. Donc 4 à 5 jours, ça n'est pas une solution unique contre le burn-out, d'accord? Donc, tu règles rien dans une boîte qui fonctionne mal en travaillant 4 jours versus 5 jours. Je peux te dire. Et c'est pour ça que, pourquoi est-ce que ça m'énerve, tous ces gens-là? C'est parce que tous ceux qui font un putain de post LinkedIn pour attirer la pitié sur eux, vraiment, je vais vous insulter, et là, pour le coup, l'insulte est méritée, allez tous vous faire enculer. Parce que vous manquez de respect à tous les gens qui sont au fond du trou, là, qui sont vraiment dans la sauce, là, qui ont, leur vie a été changée à tout jamais, par un événement, une ambiance de merde dans un taf. Et ces gens-là, on les prend plus au sérieux. Parce qu'eux, ils sont en train de souffrir. Sa mère, leur vie a été changée. Ils sont en dépression totale. Ils pourront plus jamais retravailler. Et vous, vous faites des posts LinkedIn pour dire... Le pire restant, j'ai frôlé le burn-out. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Et ça, moi, je pardonne pas. Bref, revenons un petit peu sur ce post. Je pense que le problème principal, en fait, ça, c'était une remarque qui, évidemment, n'est pas directement attribuée à la personne dont... je suis en train de faire l'analyse des posts, mais il faut faire très attention avec la notion de burn-out, d'accord? Faut pas le sortir à toutes les sauces, c'est quelque chose qui est très sérieux, et voilà, respecté. Donc bref, revenons un peu sur cette personne-là. J'estime qu'il y a un problème, cette personne-là se rend pas compte en fait que les gens qui like son post, ils le font pas parce qu'ils kiffent, ils le font parce qu'on est sur LinkedIn, et parce que tout le monde voit ce que tu likes, parce que ça fait beau de liker quelqu'un qui fait des leçons de morale comme ça. J'ai reçu énormément de messages de soutien suite à ça, et de gens qui disaient voilà que qu'ils étaient d'accord avec moi et qu'il fallait arrêter avec ce signe de vertu. Bon, tous les trucs que j'avais dénoncés dans le premier épisode, mais cette fois-ci, du coup, appliqué aux commentaires de cette personne-là. Et donc, je suis allé voir, évidemment, le contenu de cette personne, et j'avais pas capté qu'en fait, sous tous ces posts, il se fait rôtir. Et donc, j'allais écrire, je me disant, la minorité est silencieuse, ils en parlent qu'en privé parce qu'ils ont peur de se faire rôtir, hein, c'est pas très politiquement correct. D'expliquer les malhonnêtetés intellectuelles d'un commentaire de la sorte. Mais en fait, non. Et voilà, c'est une succession, tous ces posts, c'est abject, de chevaliers blancs. de la morale. Bon, bref, une catastrophe. Bon, revenons un petit peu sur le poste de base. Je me suis égaré parce que je suis parti prendre un autre de ces postes où il fait une démonstration. Revenons sur le commentaire, disons. Bon, le truc, en fait, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est quand il écrit « La semaine de 4 jours, les vacances illimitées, virgule, le remote, ce n'est pas du bullshit. » Et c'est ça qui m'a mis sur la piste qu'il n'avait pas écouté le podcast. Parce qu'il me dit « Le remote, c'est pas du bullshit. » Mais, t'as écouté, on se connaît pourtant. Tu te rends pas compte que j'ai 50 personnes en remote, moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pour ça que je vous dis que cette personne parle avec elle-même. Elle ne vous parle pas. Ces personnes qui critiquent et qui font des jugements de morale sur ce que vous faites ne vous parlent pas à vous, ils se parlent à eux-mêmes. Ils signalent aux autres. Ils signalent « je suis vertueux, regardez à quel point je suis moral ». Et donc là, maintenant, on va rentrer dans le paragraphe que je n'ai pas encore traité, qui me pose problème, le paragraphe où cette personne m'attaque. Donc, c'est un ancien client, on a travaillé il y a 14 mois, on a arrêté de travailler ensemble, et je vais en reparler. Donc là, il dit quoi? Il dit « tu ferais mieux de t'intéresser à ton turnover ». Alors, mon ami, tu ferais mieux de t'intéresser à mon NPS, qui est de 91, le NPS de mon équipe. Le NPS, c'est le taux de satisfaction d'une équipe. On dit que quand c'est au-dessus de 30, c'est excellent. Le mien, il est à 91. Donc, tes petits raccourcis ne fonctionnent pas, malheureusement. Et donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de les antécédents de cette personne, là, qui avait une marque, qu'on a accompagnée pendant quelques temps, pendant un petit peu plus d'un an, il me semble. Donc, il avait un premier account manager qui était affecté sur son compte, avec lequel ça se passait très bien, et cette personne, account manager, a décidé de partir pour monter sa boîte et faire du freelance, ce qu'on encourage, absolument. Nous, on trouve que c'est la meilleure façon de partir, donc on est parti en très bon terme, on se parle toujours ensemble, il est parti en vacances avec des gens qui sont toujours dans l'équipe, la personne là, donc on est en super bon terme. Donc forcément, on a changé le account manager de cette personne-là, de notre critiqueur là, et ça s'est moins bien passé, il y a moins eu de fit, et donc on a décidé d'arrêter la collaboration. Et donc là, quand il vient de me dire « tu ferais mieux de t'intéresser à ton turnover », en fait, ça, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus proche de la diffamation. Tu m'accuses de quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai quelqu'un qui est parti de mon équipe pour monter son propre projet. Ça, c'est certes mal passé derrière, et on peut discuter de ça si tu veux. C'était il y a 14 mois. Et donc, il y a 14 mois, je te rappelle que tu m'avais envoyé certains de tes produits aussi. Et je pourrais faire un feedback sur comment ils étaient. Je ne vais pas le faire, parce que j'estime que normalement, tu es un bon entrepreneur, tu les as améliorés depuis. Mais je ne vais pas le faire. Et ensuite, tu me dis quoi? Tu me dis, c'est d'avoir la meilleure façon de se différencier, c'est d'avoir une culture forte. Et donc, tu me dis que je n'ai pas une culture forte, alors que c'est le truc que tu as le plus loué chez moi. Quand ça? Quand je t'ai invité à manger. Je lui ai payé un déjeuner à cette personne. C'est un mec que j'ai loué dans mes vidéos. J'ai dit que ce qu'il faisait était bien. J'ai jamais eu une parole négative sur cette personne et il vient me salir en public. Il vient me salir en public au lieu de discuter. C'est une personne qui ne veut pas débattre. C'est une personne qui veut intimider. Ce genre de truc-là, là, caché derrière de la morale, c'est de l'intimidation. C'est un truc de voyou. Il veut intimider tous les gens qui pensent différemment de lui. Et malheureusement, des personnes de son espèce, il y en a plein. T'as voulu m'intimider, raté beau gosse. Donc on a affaire à quelqu'un aussi, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il confond son identité et ses opinions. C'est-à-dire que quand on pense différemment de lui, cette personne-là prend tout comme une attaque. Ça s'appelle de l'égocentrisme, c'est assez classique. Il faut quand même avoir une différence entre ses opinions et soi-même. Donc, bref, tellement d'erreurs en fait intellectuelles sur ce truc-là. Mon problème, bon écoute, je vais tenter un petit peu d'expliquer ce qui m'avait dérangé. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as essayé de jouer au grand frère avec moi. Donc, ne t'avise plus de recommencer. Je me battrai autant de fois que nécessaire pour tous les gens que tu es en train d'intimider et qui ne vont pas se défendre sous le poids de ta fausse morale. Et moi, je n'ai pas d'investisseur dans ma boîte, donc je peux jouer très longtemps à ce jeu. C'est toujours assez ridicule de voir que les personnes qui te donnent des leçons de morale, c'est-à-dire quand tu as vendu une boîte et que tu es multimillionnaire hein, et qui donne des leçons de morale aux gens, voilà. Hein? Donc tu essaies de me salir, tous les gens qui ont vu le savent, hein? Donc tu me l'as dit, ça c'est un truc que tu m'as dit. Écoute, tu as gagné des millions, c'est super, maintenant tu peux te permettre de donner des leçons de morale aux gens, je veux savoir, voilà, tu as fait la semaine de 4 jours quand tu as gagné des millions, tu as fait gaffe au moral de tout le monde. C'est tellement malhonnête. C'est d'une malhonnêteté. Et en fait, je suis content de pouvoir te call out comme ça, malgré le fait que j'ai aucune animosité contre toi. Vous savez que c'est mon style d'expression, hein, les insultes, etc., le ton et tout. Mais je vais terminer, j'ai aucune animosité contre toi, sinon j'aurais donné ton nom. Tu le sais. Donc moi, j'ai choisi de ne pas salir ton nom en retour. Les seules personnes, en fait, qui sauront qui tu es, ce sont celles qui auront vu le commentaire que toi, tu as écrit sous mon poste, quand tu as essayé de me salir. Et donc, tu vis par le faire, tu périras donc par le faire. Donc, moi, je pense que ce que les gens, ils attendent d'une boîte, c'est du sens. Et chacun peut trouver sa voie. Donc, va pas plaquer ton modèle sur tout le monde et attaquer ceux qui pensent différemment de toi. Et donc, je vais donner un conseil non sollicité, c'est d'arrêter d'essayer de jouer au chevalier blanc et de te regarder dans une glace. Parce que t'es trentenaire, t'es père de famille, et t'as arrêté ton week-end, un dimanche. Tu as passé, apparemment, selon tes dires, 45 minutes à écouter mon podcast, parce qu'en te débloquant, j'ai vu que tu avais répondu aux commentaires après ma réponse, que je t'ai quand même fait une réponse. J'ai eu le respect de t'en donner parce que tu es un ancien client de chez nous. Tu as écouté 45 minutes de mon podcast, et puis tu as passé un quart d'heure pour écrire un message de haine à quelqu'un. Tu as mis une heure de ton dimanche pour infuser ça. Et en fait, il y a un truc pour lequel je t'en veux, c'est que tu m'as forcé à faire tout ce travail d'écriture et d'aller lire le commentaire abject que tu m'as laissé, les posts abjects que tu postes, qui sont pleins de pédance et de vertu morale, de signalement. Et donc, j'ai été obligé de me taper tout ça pour pouvoir me défendre. Et c'est le seul truc pour lequel je t'en veux. Tout le reste, peu importe. Et donc, je vais te répondre de la même façon que je fais avec tous les haters. Et tu es mon premier vrai sérieux. Hein. Les gens avant, c'est assez inoffensif. En fait, j'ai vraiment de l'empathie pour toi et la position mentale dans laquelle tu te trouves. Et là, je sais que ça peut paraître sur un ton, j'ai rigolé avant, etc. Il y avait des insultes et tout. Je le dis vraiment sans rire. Si tu m'écoutes, je peux pas dire ton prénom. Je rigole pas une seule seconde. Hein. J'ai eu des passages dans ma vie où j'ai été comme ça, où j'ai eu envie de critiquer tout le monde, et c'était des passages de profond mal-être, où il y avait un truc qui allait pas, de mal-être personnel. Donc je sais pas si chez toi qui écoute, c'est le perso ou le pro qui va pas, mais j'espère que ce podcast te fera un électrochoc. Tu pourras te rendre compte de tous ces procédés malhonnêtes que tu as employés et qu'il ne faut pas faire des trucs comme ça aux gens. Il ne faut pas essayer. Et donc, tu auras deux solutions à l'issue de ce podcast. Soit tu fais la victime en disant que je t'ai attaqué. Soit tu essayes de faire une com pour corriger. Et en fait, je me rends compte qu'il y a même une troisième solution. Ou bien tu peux présenter tes excuses. Mais j'en doute. Et donc, malgré tous ces mots durs, qui sont, je vous le répète, mon style d'expression depuis très longtemps, j'ai vraiment aucune animosité envers toi. Donc je veux pas, c'est pour ça que je veux pas, je m'en fous de me venger. Je le fais surtout pour les auditeurs et je m'adresse en partie à eux et je vaque entre eux et le tu pour m'adresser à toi parce que je suis sûr que tu écoutes. Tu as déjà passé 45 minutes sur le premier épisode. Je te souhaite très sincèrement, profondément, du fond du cœur, bon courage pour cette épreuve. Genre vraiment pas facile que tu dois être en train de vivre mentalement. Donc à vous tous auditeurs, faites preuve de courage, ne vous laissez pas intimider. À la semaine prochaine.